Bonsoir. On est très très fatigué comme l'équipe de France, mais on a tenu quand même à faire un numéro avant de partir en vacances comme l'équipe de France, parce qu'on est champion du monde comme l'équipe de France, mais pas Grégory Schneider. Voilà, on a une petite pensée pour lui. C'est le numéro 2 de Radio Hors-Jeu, nouvelle génération, Reloaded, de tout ce que vous voulez. On n'a toujours pas de nom. Vous devez nous envoyer des noms. Envoyez-nous des idées de noms, parce qu'ici on m'a suggéré le podcast depuis tout à l'heure, et c'est non.
Si, le
c'est
podcast.
Non, Capitaine Rail. Capitaine Rail, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très mal, et vous?
Ça va. Enfin, ça va. L'état physique et l'état mental sont complètement dissociés.
J'ai mal parce que je suis dans le mal.
Hein. Voilà.
C'est pas parce que j'ai rien contre la France. Benzema jeune, ça ne m'intéresse pas. Par contre, 1-2-3, viva la Francie.
La France. La Francylvanie. Bonsoir Roland
Gromerdier.
Roland Gromerdier aussi qui est là.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très fatigué moi aussi.
Très fatigué hein.
Ouais, c'était une finale que j'ai vécue de façon intense.
Pas de RTT ce matin.
Non, voilà. C'était un peu compliqué. Genre, j'ai mal géré mon effort.
C'est
la fracture bête un peu là. Mais bon.
Et à côté de lui, maillot de l'équipe de France vêtu et le regard rieur. Monsieur, oui, si, vous avez le regard rieur, Spooner. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous
comme
aussi?
Comme un charme.
Comme un charme.
J'ai vécu la finale loin de toute agitation urbaine et périurbaine, au fin fond de la campagne. J'ai entendu un seul klaxon et encore très lointain.
Qui était peut-être pas.
Et qui était
plus,
peut-être. En fait, ça se trouve, c'était
un refus de priorité.
C'était un refus de priorité, je crois.
Et du coup j'ai bien dormi. Je suis en je vis la plénitude du moment, voilà, je suis apaisé, reposé, complètement vidé, mais en pleine jouissance depuis 24 heures.
Ok.
Écoutez, tant mieux. À côté de vous, un homme qui n'est pas en Belgique cette semaine, qui s'est rappelé qu'il était en France, le père Fidalbion, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
J'en ai tellement plein le cul, j'en peux plus, cette compétition m'a laissé exsangue.
C'était long.
Ouais, en termes de compte en banque, en termes de taux d'alcoolémie, en termes de fatigue, et en plus, j'ai rien branlé sur le site, donc j'imagine même pas ceux qui ont travaillé.
Je sais pas, je connais pas.
Non, tu l'es. Ah, non, tu vois pas. Ouais, bah, je sais. On parle, on dit qu'il y a des gens.
Peut-être que Marcelin Albert faisait partie de
cela. Peut-être que Marcelin Albert.
Bonsoir, Marcelin.
Bonsoir. Oui, effectivement, j'ai écrit pas mal de choses sur le site, mais rien comparé à notre ami Camillus Bla, à notre ami Lucifer, je ne sais pas si vous
notre
le connaissez.
Notre ami Spooner aussi, ami qui a été parmi les plus actifs.
Et après, concernant mon état de fatigue, je suis très fatigué, mais je suis très heureux. Et il n'en faut pas beaucoup pour que ça pète et pour que ça... voilà.
C'est vrai.
Je vais partir en famille demain. Je sais pas. Il y a des gens dans ma famille qui n'en a rien à foutre de ce petit mondial. Ils vont prendre des trucs dans la gueule. Désolé, tantine et tonton, parce que voilà. Mais ça va.
Eh ben écoutez, tant mieux.
Et vous, toi, ça va?
Oui, ça va. J'ai vécu un week-end très alcoolisé, évidemment, comme tout le monde, très festif et
non,
tout, mais très compliqué, entouré de gens qui n'en avaient pas grand-chose à foutre du foot. Et parfois, même si c'est vos amis et que vous les aimez vraiment, vous avez vraiment envie de leur jeter des trucs parce que les gens ne comprennent pas la tension et tout, et font des blagues chiantes, et font quatre fois la blague Rakitic, il est rachitique. Voilà, c'est ce genre de trucs.
Première fois que je l'entends,
celle-là. Ah, c'est vrai? Moi, je l'ai eu pendant 85 minutes, du coup.
Oh là là,
je crois que j'avais pas osé jusque-là, en fait.
Et du coup, c'était un sentiment. De joie aussi quand même de voir cette finale gagner, mais de soulagement aussi parce que c'est le match était terminé.
De joie un peu solitaire du coup.
Ouais, bah, y avait quand même une ou deux personnes qui s'intéressaient au truc et tout, et puis après,
vous avez pu vous dire
il y a les gens qui s'en foutent mais qui sont contents de vous voir heureux. Enfin voilà, j'avais ma copine, voilà, je me la pète, j'ai une copine. Elle était agrippée à moi tout le long et tout, et elle trouvait ça assez fascinant de voir quelqu'un complètement happé par une télé et heureux d'un dénouement.
Mbappé.
Complètement Mbappé par une télé.
Mbappé. On va faire. Voilà, c'était Skyrock. On fait le hip hop ce soir.
On avait dit qu'on était fatigués. Hein.
Ouais, on va faire jingle de Lidito Vénère.
Waka waka waka.
Merci, Capitaine Rail. Et en fait.
Ça balance. C'était pas moi. C'est un cousin à moi du blé.
Et en fait, il n'y a pas d'édito vénère cette semaine parce qu'en fait, on est tous très contents parce qu'on est tous très champions du monde.
Du coup, ouais, jingle.
Et du coup, jingle, pas d'édito.
Waka waka waka.
Tu ressembles vachement à.
Le précédent ?
Ouais.
J'en ai un. Mon cousin en a un.
On s'en servira plusieurs fois, j'espère, dans l'émission. On est champion du monde, on est tous heureux. Mais il faut. voilà.
Merci à tous. Je suis pas sûr que ça se trosse, qu'on le ressente bien là, non, que les gens ressentent notre joie.
Je crois qu'on est tous fatigués en fait.
Je pense qu'on peut arrêter là. Merci à tous. Voilà. Bonne soirée, bon podcast.
C'était un super.
J'espère qu'il vous reste 22 stations d'RER.
Alors c'est fort. Voilà, ouais, on fait le mixage en direct parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas de régie ce soir. Voilà, parce que le régisseur est encore ivre, je pense, de cette Coupe du Monde. Et voilà, donc non, mais voilà, on est champion du monde et on est heureux, on est très content. Et il faut quand même se poser la question de ce match, comment on l'a vécu. Est-ce qu'on peut dès maintenant dire que c'était quand même le pire match de l'équipe de France sur le mondial?
Non. J'ai loupé l'Australie.
Certainement pas.
Il paraît que l'Australie était infâme.
Non, c'est le Danemark.
Danemark,
mis à part, parce que c'était même pas les équipes A sur le terrain. Mais
l'équipe MB titulaire, si, c'est carrément l'équipe A. On en reparlera plus tard.
Non, alors non, vous avez trouvé le contenu du match satisfaisant face à moi, monsieur. Enfin, un vrai bon match de l'équipe de France.
Non. Alors attendez, il faut voir plusieurs choses déjà. Il y a le match, l'enjeu du match et la manière dont la chose se passe. C'est-à-dire que le match, c'est une finale. L'enjeu, c'est la victoire en Coupe du Monde. À un moment donné, je sais plus, c'est toi qui employais, Marcelin, cette expression-là, il faut des chiens de la casse. C'est-à-dire que peu importe la manière et le format, l'important, c'est d'être devant au coup de sifflet final. L'équipe de France a réussi l'exploit. Parce que c'est un exploit, étant donné la configuration du match, d'être devant la Croatie aux deux coups de sifflet du match, à la mi-temps et à la fin du match. Et c'est complètement incroyable. À mi-temps 2-1, on l'a dit en préparant le podcast, 2-1 en n'ayant qu'un seul tir. Donc c'est quand même, ne serait-ce que cela, c'est un exploit statistique. C'est un exploit en termes de physionomie du match, parce qu'en aucun cas, on doit être devant à la mi-temps. On prend le bouillon au milieu, l'attaque, il n'y a aucune circulation, et la défense se fait vraiment le dos rond en ayant quand même certaines craintes, parce qu'on voit des ballons passer assez près de la cage de Lloris, et devant lesquels Lloris intervient assez peu finalement, et s'éloigne très très peu de sa ligne, même sur les ballons qui sont sur la ligne des 6 mètres. Et en deuxième mi-temps, on reprend le bouillon avant le but de Pogba. Il faut quand même voir que le meilleur joueur de la compétition pour moi, qui est Kanté, sort parce que il était sur à cloche-pied pendant toute la première mi-temps.
On a parlé de gastro. On a parlé de gastro et
maintenant on a la position pour pouvoir réécrire l'histoire en disant que Kanté était diminué pour X raisons. J'ose imaginer que, étant donné le caractère de ce mec, c'est chose vraie. Mais c'est vrai qu'un changement d'une pièce aussi importante à la 55e minute, je ne sais pas, dans ces eaux-là, c'est un risque énorme de déstabilisation d'une équipe qui n'était pas, quand même, qui ne respirait pas la sérénité. Et le but de Pogba, il libère tout le monde. Le but de Mbappé, c'est superbe. Et
heureusement, Lloris revient.
Remet un peu de suspense et permet à Mandzukic d'être double buteur en finale de Coupe du Monde, ce qui n'était pas arrivé Zidane en 98.
Il n'y avait pas Ronaldo en 2002.
Ah si, peut-être Ronaldo qui fait le 2-0
en 2002.
Depuis 2002. Et donc en fait, on prend le bouillon. On ne sait pas comment on mène à la mi-temps. On a assez peu de souvenirs pour savoir comment on arrive à mener 4-1 à la 75e ou à la 80e. Au final, on gagne 4-2, on est champion du monde. Et on a juste à se laisser submerger par cette vague de bonheur, cette vague de satisfaction. Et après, on n'est pas obligé de tourner la chose en une masturbation stérile en disant qu'on a été meilleur à tous les matchs et à toutes les minutes de tous les matchs et à chaque poste de toutes les minutes de tous les matchs. La coupe, elle est chez nous.
Monsieur Velter, oui, tout à fait. Monsieur Fidel Bion, pardon. Oh là là, je donne les noms.
Ça balance des noms. La première mi-temps était quand même
une dégueulasserie.
Mais c'est pas grave. Mais même en termes, je parle même pas en termes de style de jeu, en admettant le football que Deschamps a mis en place, etc. C'était surtout sur les transitions où ça se voyait qu'on balbutiait. C'est que les ballons récupérés, on savait pas quoi en faire. Kanté, non seulement il a été à la peine défensivement, mais souvent il avait très peu de solutions sur les ballons qu'il récupérait.
Il avait aucune transmission.
Il avait rien, mais vraiment, même des fois, je le voyais lever la tête et faire 2-3 touches et du coup perdre le ballon. Et sur ces trucs, et dès que les ballons, là où les Croates ont été très forts, c'est que dès que les ballons étaient excentrés, c'est-à-dire que dès que c'était soit Hernandez, soit Pavard qui ressortait les ballons sur les côtés, ça fermait directement et fallait pas compter sur en première, fallait pas compter sur Mbappé pour revenir aider les petits collègues ou
ni en première ni en seconde. Hein, ni mais en c'est première. Pas son rôle à la limite.
Non, c'est pas son rôle.
C'est pas. On sait très bien qu'on le laisse ne pas revenir. C'est l'attaquant qui ne revient pas. Griezmann revient, Giroud fait plus que revenir, il fait beaucoup plus d'efforts que ça, on en reparlera je pense.
Attendez, on vient de citer le nom de Giroud, il n'y a pas eu de huée, c'est incroyable. Voilà, c'est quand incroyable. Même un truc, non, voilà.
Mais j'ai montré ma bite.
Et on fait le choix de dire à Mbappé, ton jeu c'est pas de revenir, ton jeu c'est d'être frais quand il faut sprinter. On l'a vu.
Du coup, ça, ils l'ont vu.
On l'a vu contre l'Argentine.
Marcos Rojo s'en rappelle. Hein.
Ouais. Bah ouais, et je pense qu'il s'en souvient pas, ça allait trop vite pour lui. mais voilà, non, ce qu'il faut noter de ce match, moi je l'ai revu ce matin. Je me suis infligé ça.
Ah ouais, d'accord.
Il est passé sur
le voilà, non, il est passé sur LCI ouais, à 14h du matin.
Je l'ai revu sur LCI à 14h aussi.
Et on se fait. En fait, c'est le premier match qu'on a de cette Coupe du Monde. On joue contre une équipe qui a un milieu de terrain supérieur au nôtre. Mais supérieur largement. Techniquement parlant, tactiquement parlant.
Tu veux dire sur ce match-là ?
Sur ce match-là. Ah oui. Même de façon générale, je pense que le milieu de terrain croate est au-dessus du nôtre. Après, leur défense, leurs latéraux, c'est autre chose. Mais et même devant, hein. Ils n'ont pas les armes qu'on a, mais sur leur milieu
le
de terrain.
Le milieu, toi, tu dis juste Modric, Rakitic ou t'inclus aussi les ailiers ?
Rebic, j'inclus les ailiers, j'inclus tout ça.
Rebic, Perisic.
J'inclus les défensifs, les machins.
Moi, milieu au sens large.
Un bémol sur Perisic.
Au sens large. Et ces mecs-là, ils nous ont bouffé. Oui, mais... Et tous les ballons, comme tu disais, que ce soit Kanté, Pogba ou qui tu veux, ils n'avaient aucune solution parce que les mecs étaient prêts. Après, il y a aussi une. Ils baissent de pied en seconde mi-temps. Physiquement, ils n'y arrivent plus.
Et un match de plus, quoi.
Ils ont concrètement un match de plus. Et nous, ce fait, on le connaît, on l'accepte, et du coup, on joue avec nos armes. Alors, les buts de la première période, c'est fantastique, du coup, on marque sur nos temps faibles, ce qui est extraordinaire. Ouais. Mais sur la seconde, on joue en contre parce qu'on a la chance d'être devant. Et moi, ce que je remarque, sur le même, si la Croatie était largement au-dessus de nous dans le milieu de terrain, c'est que devant, ils ont eu très peu d'occasions sur le match. Hein. Ouais. Ils marquent un très beau but sur une combinaison de coups de pied arrêtés. Nous, on marque un penalty qui sort, bon, on en parlera aussi un peu de nulle part. C'est une main, elle est là, elle existe. Ok, on peut la siffler. C'est pas un scandale. D'ailleurs, les Croates sont pas scandalisés une seconde. Hein, ils réclament rien d'autre.
Après le match, ils étaient un peu.
Après le match, ouais, mais
après le match, après le coup, quoi.
Après le coup, forcément. Et sur le fait, bah, le gars.
Non, mais c'est vrai qu'à la fin, on en a parlé. Ouais. On s'est dit, non, mais attends, deux secondes. Ok, on a un peu les fesses qui ont fait bravo, machin. Mais globalement, quand tu réfléchis, quand tu essayes de revoir les occasions, les trucs, les machins. Bon, ça a pas été. On en met 4, ils voilà, en mettent 2.
On en met
4,
il faut noter. On en
ils
met 4.
Ouais, ouais. Ça ouais, a ouais. pas été hyper. On n'a vraiment pas été énorme, mais eux,
non.
ils ont pas
ils
été.
Ont, non, voilà. Non, mais c'est pas un 1-0 de raccro, un but qu'ils ont donné nulle part. On en met 4 encore une fois. 4 en finale.
Je sais que paradoxalement, moi, j'ai quand même été beaucoup plus stressé sur ce match-là que sur la Belgique,
carrément.
Alors que j'avais l'impression que la Belgique était quand même beaucoup plus capable de créer des choses.
Ouais, peut-être
les Croates, je pense qu'il y a vraiment des moments où on a aussi un poil de chance avec des contrôles ratés quand ils doivent pas les rater parce qu'ils avaient trouvé
de
des ouvertures
ou de fatigue de leur part, hein, de voilà. manque de lucidité, de fatigue.
Ouais. Oui, sans doute que ça joue aussi.
Il y a ça aussi. Hein. Après, j'ai pas regardé les stats, je sais pas combien de possessions ça termine, mais je pense qu'on est.
C'est 62, 80.
Ouais, ouais, d'accord. 30, ouais. Mais nos armes sur ce match-là, c'était clairement de se dire on va jouer en contre et on l'a fait et on l'a très bien fait. Notamment en seconde période, en première mi-temps, on n'était pas capable de contrôler un ballon.
Comme tu disais tout à l'heure, on a eu la chance et je sais plus qui c'est qui le disait dans un article qui a été publié ce matin d'un grand quotidien, je sais plus où, on a eu la chance d'être devant au score.
Parce que
Spooner le disait tout à l'heure, ça nous est pas tombé tout cuit dans la bouche, mais à demi tout cuit, tu vois, c'est genre hop, oh là, hop, non, pirouette, on est retombé dans le bon sens.
Tout cas, mais le coup franc est bien tiré, non, il arrive dans la bonne zone. Mais effectivement, t'as une chance sur 1000 pour que ça finisse dans la lucarne. Hein.
On s'en est sur ce côté-là, ça nous a remis dans le bon sens. Quoi.
Voilà, ça nous remet dans le bon sens. On se reconcentre parce que ce qu'on note sur le premier quart d'heure, c'est la fébrilité des mecs de toute l'équipe. En façon générale, il n'y en a pas un chez nous qui a réussi un contrôle, qui a réussi à faire une passe, qui fait la passe intelligente, et parce que les mecs, ils sont tétanisés par l'enjeu. Mais ça t'explique aussi parce que t'as des mecs comme Hernandez, comme Pavard qui ont 22 ans, comme Mbappé qui
Pavard,
a 19
ans. Il a jamais connu en fait avant la Coupe du Monde des matchs à enjeu.
Ben non, ils ont jamais connu. Enfin, ils ont joué la Belgique,
ils ont fait
des matchs. Mais t'arrives sur une finale et c'est compliqué. Mais on se rend le match facile en marquant sur dans nos temps faibles. Hein.
Et je pense qu'un patron comme Varane a quand même bien rassuré au niveau du comportement derrière, pendant toute la première mi-temps.
Et c'est ce que je trouve pas que Lloris n'a pas fait, il n'a pas rassuré son équipe.
Bah non, parce que je trouve qu'il était, il était très très fébrile.
Est-ce que c'est parce que c'est un Lyonnais, Roland Grosmeur?
Non, il ne reviendra pas jusque-là, mais bon. Non, mais c'est dommage parce qu'il a fait quand même une bonne Coupe du Monde jusque-là et finalement il rate le match le plus important quasiment.
Bah en fait, c'est terrible, mais oui, quand on regarde les images. Enfin, en fait, la dernière image de la finale, c'est vraiment le bugag, quoi. Oui.
Il sort quand même une grosse
plaquette. Il a une grosse plaquette. Non, mais en soi, est-ce que Lloris aurait pu. Est-ce que sa boulette lui tue le titre de meilleur gardien du tournoi, vous pensez?
Je pense.
Est-ce qu'il y a eu un changement de dernière minute?
Parce que finalement, c'est anecdotique. Un changement de dernière minute, je sais pas. Parce que c'est Courtois, du coup, si je me trompe pas.
C'est Courtois.
Courtois qui fait quand même beaucoup de gros matchs, notamment contre nous.
Il est constant. C'est un gardien qui est.
Non, c'est Courtois. Constant, il joue ailleurs.
Oui. Pardon, excusez-moi.
Mais voilà, du coup, il est très poli, on peut dire, du coup, même s'il n'est pas libyen. Mais
je pense que creuse. Allez, voilà, allez, on va vous laisser. Merci.
Johnny Creuse.
C'est Réré Chanson, là.
Super. Ça fait 4 jeux de monde
sur la. Je pense que je vais finir la phrase de Karim qui n'arrive pas à finir, il s'enfonce dans sa blague.
Rail.
Mais je pense qu'on va. Pardon.
Karim,
on va être d'accord, c'est Karim que Dimash. Courtois était sûrement plus constant sur la régularité des arrêts. Ceux de Lloris ont été peut-être beaucoup plus importants et beaucoup plus.
Il rapporte pas des points, mais contre la Belgique, voilà, il gagne, c'est lui. Il en sort une énorme. Oui. Et contre l'Uruguay, il en sort une belle aussi.
Ouais.
Il y a plein de tous les matchs.
L'Argentine aussi.
L'Argentine aussi, il en sort quelques-unes.
Il a une série qui est.
Partout.
Mais le 4-2 hier. Si le 4-3 arrive, je pense qu'on se retrouve en prolongation. Hein, parce
non,
que les mecs,
d'accord.
Ils ont. On change un peu le momentum, pour parler un mot très.
Très Bruno Roger Petit, quand même.
Le match change à ce moment-là. On est à 4-1, les mecs ont baissé les bras et il n'y a plus qu'à gérer le match. Et on encaisse ce but un peu gag, enfin, qui est contrairement.
Non, mais oui, clairement. Fin.
Et les mecs repartent, du coup, ils se remotivent. Et c'est dommage, à ce niveau-là, de faire ça. Nous, à Paris, on a Areola et Trapp. Et on voit régulièrement ces choses-là. Et c'est. Finalement, ça reste 4-2. En fait, il n'y a pas de mort d'homme. Hein. Il perd probablement son titre, sa récompense de meilleur gardien à ce moment-là.
Très rapidement, bon, on a pas mal parlé de la finale. Je pense qu'on a plus ou moins dit ce qu'on avait à dire. Donc, on va conclure un peu sur l'équipe de France. Mais très rapidement, si vous voulez garder peut-être un moment... excusez-moi. Un moment de cette Coupe du Monde française, à moins que Marcelin voulait rajouter un truc sur la finale.
Non, je pense que tout a été dit. Alors déjà, je remarque que vous avez des souvenirs très précis de la finale, ce qui me...
On a moins
non, mais moi, oui, alors, sauf le capitaine qui comme moi, l'a revu à 14h à LCI, mais le perfide Albion qui était à ma gauche pendant la finale et a une capacité, je trouve, à se dissocier entre la personne ivre et la personne qui analyse un match qui est assez étonnante. Moi, j'ai vécu la finale.
T'as trop vu des images.
J'ai vécu la finale comme j'ai vécu la finale de l'Euro 2016. Ivre.
Virgule.
Non, sans virgule. Ivre tout court. Et ivre point.
Ivre point.
Donc, j'aurais énormément de mal à avoir une. Même à 14h, quand je l'ai regardé, j'étais pas ivre, mais j'ai toujours énormément de mal à faire une analyse tactique et assez rationnelle sur une finale. Parce que pour moi, une finale, qui plus est de Coupe du Monde, c'est l'événement irrationnel par excellence. C'est l'événement où tout se passe et en même temps, rien ne se passe puisqu'on transforme des... Surtout quand c'est son pays qui joue, on transforme un moment en quelque chose d'extraordinaire alors que ça pourrait être un match dégueulasse ou un match pas dégueulasse. J'imagine que les Portugais en 2016 qui ont dû sublimer la victoire et la fêter.
On leur pardonne d'ailleurs.
Alors que le match était dégueulasse. J'ai moins de souvenirs, mais je me souviens que 2006, la finale n'est pas dingue.
Quelques belles actions.
Il y a une tension, en fait. Il y a une tension particulière. Ça, ouais. Moi, je me souviens d'avoir passé la première mi-temps de cette finale, pas encore ivre, mais très
jeune. Vous étiez jeune.
Ah non, je parle de celle d'hier.
Ah.
Très tendu, donc je vais pas livrer d'analyse. La deuxième mi-temps, je trouve que en fait les Croates déjà ont baissé de pied et surtout on les a tués sur quelque chose qu'on a et qui et qui on peut pas le nier. J'ai revu ce matin une vidéo de Bielsa qu'il prophétisait que on a les meilleurs jeunes de toute la planète football. N'en déplaise à nos amis allemands qui alignent des U23 en finale de Coupe des Confédérations et qui se plantent derrière en les appelant pas à la Coupe du Monde. Bref, on a un réservoir énorme et en fait on les a tués juste sur ça, quoi. Parce que l'action de Pogba, l'action d'Mbappé, c'est eux tout seuls qui décident de faire parler leur sens du football, d'étaler le truc, le placement, les appuis, les pas nécessaires pour mettre une frappe, machin.
Transversal derrière, de Pogba, quand même, il faudra qu'on en parle, parce voilà. Que...
Incroyable, sur Mbappé.
Vida et Lovren, qui malgré...
Targiverse.
Malgré ce que peut dire Jurgen Klopp, n'est pas le meilleur défenseur de centrale de la planète.
C'est lui qui l'a dit, c'est Lovren lui-même qui l'a dit.
C'est lui tout seul, hein. C'est des jeunes Le bon des jeunes.
J'ai vu une citation de Klopp qui disait que Lovren avait une capacité extraordinaire.
Oui, mais je crois qu'il a été interrogé dessus.
Même pas le meilleur défenseur central de Liverpool.
Je pense. Ouais, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que. La deuxième mi-temps, c'est on les tue sur ça. Et malgré le fait que, évidemment, moi, quand on prend le but, la cagade de Lloris, je suis comme ça. Alors, ça s'entend pas au son, mais je flippe beaucoup.
Il fait les miquettes, là.
Je fais les miquettes avec les doigts, avec
c'est
les
pas
pinces.
Les oreilles, hein, de miquettes.
Non, c'est pas miquette.
Miquette et mini.
3D.
Voilà. Encore deux mots, on a finalement, et peut-être que ça fera rebondir sur le bilan général. Je trouve pas qu'on ait beaucoup flippé sur cette Coupe du Monde, malgré ce qu'on pouvait penser avant. J'ai pas l'impression d'avoir vécu des moments où je me suis vraiment dit ça pue quoi. Voilà.
La statistique inutile, on a été mené au score sur cette phase
9
finale.
Minutes. Ouais.
9 minutes.
Voilà. Et il y a eu cette phrase, je pense que tout le monde l'a vu passer ce matin, je crois que c'est le New York Times, je crois, qui a écrit qui est hyper juste et que tout le monde a trouvé juste, qui était que, en gros, la France a eu juste besoin à briller plus fort que les autres, mais on n'a pas eu besoin de le montrer aussi souvent, en fait. Il y a eu juste besoin de mettre des coups d'accélérateur très placés, et ces coups d'accélérateur-là, en fait, ils ont suffi à mettre la supériorité sur des temps très courts. C'est le coup de rein d'Mbappé, la transversale de Pogba.
C'est
en fait, on a brillé, et après on est revenu à la discipline, et ça a suffi.
À savoir qu'on peut faire partir du danger à n'importe quel
moment.
C'est exactement
ça. On dit que le niveau mondial général s'est relevé parce qu'il y a des gros qui sont partis.
Il n'y a plus de petites équipes.
Là, on rejoint ce que tu dis, on est très linéaire quand même.
Oui, mais on est quand même, nous, champions du monde, en accélérant au moment où il faut et en n'exploitant pas nos capacités à 100%.
On a été tout droit.
Parce que je suis pas d'accord sur le coup où on n'exploite pas nos capacités à 100%. C'est qu'on
potentiel
peut...
alors.
Potentiel. Mais Mbappé ou Pogba ou machin, ils peuvent pas être extraordinaires 90 minutes. C'est pas possible. On voit Mbappé à Paris, hein. Il essaye beaucoup beaucoup de choses et au fur et à mesure, il retombe. Même s'il est très jeune, il est très dynamique, très ce que tu veux. Mais c'est savoir le faire à bon escient au moment où ça va faire mal et aller au fond. Parce que ce qui est dingue, c'est contre la Belgique, on rate beaucoup d'occasions. Hier. Il n'y a pas beaucoup de trucs qu'on loupe, hein. Ça va au fond systématiquement.
Mais Mbappé, justement, je le trouve par rapport à sa saison à Paris. Enfin, il m'a vraiment impressionné sur la Coupe du Monde parce que je l'ai trouvé beaucoup plus malin, beaucoup plus. Enfin, plus réfléchi sur ses.
Avec un entraîneur qui s'est.
Voilà, est-ce que ce serait pas. Non, mais alors, je ne vais pas dire qu'Emery, ce n'est pas le dirigeant.
Calmez-vous.
C'est pas un reproche. Ouais.
Poser cette arme.
Surtout qu'il n'a pas le même statut.
Je pense que voilà. Tous les grands réalisateurs n'ont pas su gérer De Niro ou Alpacino.
Non, c'est pas ça.
Je pense qu'il y a un rôle. Il n'y a pas l'ombre de Neymar aussi.
C'est pas l'ombre, il veut pas copier Neymar quand il est équipe de France. Ouais. C'est qu'à Paris, il a ce moment où il veut faire le petit dribble de trop, le crochet, le geste pour qu'on l'applaudisse comme Neymar. Et là, il a simplifié son jeu dans beaucoup de moments en jouant une touche de balle, en allant tout droit. L'OM droit au but.
En faisant parfois plus de passes aussi.
En faisant aussi, parfois plus de passes.
Ce que disait Clément aussi au niveau de la justesse et le côté un peu malin. Genre la frappe qu'il prend hier, c'est hyper malin.
Ouais.
Subasic est masqué. Vida et Lovren choisissent de ne pas sortir parce que c'est des débiles.
Les deux buts sont délirants, hein, celui de Pogba juste avant. C'est pareil. C'est pareil. Pogba où il change de pied parce qu'il voit Subasic partir.
Il a le temps de changer de pied.
C'est parce que c'est des gens, ils font des choses qu'on ne sait pas faire.
Sur la défense de la France, c'est ça, c'est que jamais. Il n'y a pas rarement un Croate qui a été en position de changer de pied, ni un Belge quelques jours avant. Il y a une différence de niveau.
Je suis d'accord. Est-ce que justement le rendu du truc fait qu'on a l'air de ne pas forcer? C'est ça qui est c'est très
bien. Oui, alors on a l'air.
Je pense faire un parallèle avec un sport que peut-être on va blâmer, pas le cyclisme, mais ça me fait penser à certains matchs de l'équipe de France de handball qui
décide
de forcer, de faire des frappes chirurgicales, de forcer pendant 5 minutes.
Mais tu fais moins d'efforts.
Après, parce
que tu gères tes efforts.
Voilà, après on défend.
Et ce qui est dingue, c'est de dire que c'est des mecs qui gèrent leurs efforts, des mecs qui ont 19, 20 ans, 22 ans. T'as quelques cadres qui sont. Parce que Pogba, malgré son jeune âge, c'est quand même une carrière extraordinaire.
Alors Pogba, je me suis posé la question, c'est 25 ?
25.
Mais c'est Varane, c'est pas. 25 ans, il n'y a pas beaucoup d'équipes.
Oui, je suis d'accord.
Au milieu de terrain qui a
la maturité au milieu va être à plus à 28 ou un truc comme ça.
Là, on a enfin eu justement ce qu'on attendait, c'est que le mec, tout le monde disait fallait qu'il soit le patron justement sur ce.
Mais est-ce qu'il hier, il a une réaction sur TF1 en interview où il crache un peu toute sa haine sur
en anglais aussi, il a fait
la
même.
C'était pas elle, mais est-ce que il crache pas sa haine, il le dit, non mais il le fait à sa façon, en se moquant, en étant très Mais est-ce que
c'est pas grave, mais c'est pas grave.
De manière gênée aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de gêne.
C'était gênant, c'était plutôt gênant que gêné.
Mais
bah, c'était gênant parce qu'il se trompe d'interlocutrice. Voilà.
Non, mais même sur ça,
c'est...
mais ce que je veux dire, dont il attaque, ouais. C'est gêné aussi.
Ce que je veux dire, c'est que Rami aussi en a parlé après. Et est-ce que dans le groupe, ça les a pas renforcés en disant on va leur montrer qui on est?
Ah, bah, mais de toute façon, sans doute, il suffisait d'ouvrir un édito de Vincent Duluc pour
que les mecs soient énervés. Est-ce que Deschamps, par son expérience à l'OM notamment, tu vois, il a appris avec Tapi et compagnie. Hein. Est-ce qu'il n'est pas allé coller des éditos de l'équipe dans le vestiaire? Est-ce que
Deschamps, faut pas qu'on en parle comme ça juste à la fin, genre à la marge, parce que son parcours est incroyable.
Ah, oui, non, mais plus qu'incroyable.
À mon avis, Deschamps sait trouver les mots tout seul, sans avoir à faire intervenir quiconque par ailleurs. Et ça fait quand même 15 ans qu'il est entraîneur, hein, Deschamps.
Il gagne partout où il passe.
Alors non, il gagne pas partout, parce que la finale de la Ligue des Champions à Monaco...
Il tire son équipe vers le haut.
Jusqu'à maintenant, il avait une finale d'Euro perdue aussi.
Ouais.
Il a ramené le titre à Marseille. La Juve, il a pas eu de titre.
Si, champion de Serie B.
Il a fait qu'une saison là-bas. D'accord. Bien sûr, mais c'est pas ce que j'entends pour un titre pour un club de premier plan.
Donne-lui la possibilité de faire en Serie A.
Il
pourrait
peut-être faire autrement.
Il y avait Del Piero très
dans
l'équipe en Serie B.
Effectivement, Paul Le Guen aurait été champion avec cette équipe.
Il a été.
Mais son parcours est quand même.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a le discours pour, et il sait prendre des jeunes autour de lui. Et je regardais le discours à la mi-temps de France-Croatie, mais l'ensemble de la mi-temps, 98.
D'accord.
Et en fait, il y a Jacquet qui fait sa gueulante, on la connaît, vous avez peur de qui, vous avez peur de quoi, c'est facile, on va jeter la pièce et tout ça. Et en fait, dans la seconde partie de cette mi-temps-là, c'est Deschamps qui recadre. Il dit, du coup, on fait quoi, les gars? On fait quoi? On laisse les lignes 50 mètres entre elles, ou est-ce qu'on monte ensemble, ou est-ce qu'on descend ensemble et tout ça? Et je pense qu'il a ce talent de discours de vestiaire, en étant joueur, capitaine, ou en étant entraîneur, tout en restant proche des joueurs. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'il peut enfoncer des portes ouvertes en disant, toutes les caricatures qu'on peut entendre à droite à gauche, en disant le tactico-tactique ou le truc qu'il faut bien défendre, il faut marquer plus de buts. Mais il sait motiver, quoi. Et c'est vrai que... On va peut-être terminer après sur l'équipe de France, mais l'émergence de leader à chaque ligne, c'est juste essentiel, quoi. Il y a Varane, il y a Pogba, il y a Griezmann. Et
les ambianceurs aussi. Le groupe, la manière dont il est bâti aussi, c'est pas seulement les 11 titulaires.
Les Rami, je voyais des gens qui essaient de tirer les parallèles avec 98. Des seconds couteaux ambianceurs. En 96, on avait Le Boeuf. En 98, on avait Candela. En 2006, j'ai plus le souvenir de qui avait
Pascal Chimonda.
Toujours ces types-là. Mais c'est vrai qu'un mec comme Rami, Rami, c'est incroyable. Ce mec-là, il n'a absolument pas à attendre d'être présent sur le terrain. Donc son rôle, c'est que d'être de la bonne humeur, quoi.
À chaque fois qu'on a fait appel à lui, il n'a pas été ridicule.
Non.
Cette Coupe du Monde, il a très peu joué. Je sais même pas si.
Il n'a pas joué
du tout, mais les matchs d'avant ou il y a deux ans, l'Euro, il se débarque machin, et il s'impose aussi. Je pense que par un charisme,
c'est quand même le numéro 4 ou 5 en défense centrale, quoi.
Bah, 5 parce que si Koscielny,
Varane, Titi, Koscielny, Kimpembe,
je sais pas s'il n'y a pas de blessure de Koscielny. C'était très triste d'ailleurs de voir Koscielny et Payet dans les vestiaires hier. C'était le grand moment de gêne. Il y a tout l'Instagram en direct de Pogba où il est là, il fait la fête avec tout le monde. Et là, d'un coup, il fait il est là lui aussi. Et là, t'as Payet qui est dans son coin avec son costard et tout. Et il essaie d'échanger.
L'absence de Koscielny fait qu'on n'a pas de carton rouge de mémoire.
Allons même plus loin. Est-ce que parce qu'il n'y avait pas de Gunners dans cette équipe, on a pu gagner la Coupe du Monde?
Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Mais bon, Giroud qui part, Koscielny qui se baisse et Lacazette qui est plus sélectionné. Le seul point commun, c'est Arsenal.
Spooner, il recycle ses tweets. C'est bien, c'est pratique. Il fait des vannes le matin, il les ressort le soir.
On appelle ça le monde des médias, monsieur.
Bien sûr.
L'analyse de Pierre Ménès.
Le cross média.
quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Didier Deschamps?
On n'a pas parlé de ton changement. On en a parlé avant.
Ah oui, on en a parlé avant.
N'Zonzi.
Ouais. L'entrée d'N'Zonzi, du coup.
Roland, ouais. Par exemple.
Bah, moi, c'est vrai que quand il a sorti Kanté, de toute façon, Kanté, je ne l'ai quasiment pas vu du match. Ouais. Bon, je me suis dit, c'est quand même pas son meilleur soir. Alors après, on en a parlé, on a dit, oui, la gastro, on ne sait pas, peut-être. C'est vrai, hein, je pense pas qu'il simule par rapport à ça.
C'est un des trucs.
Mais c'est vrai que quand on choisit de sortir Kanté, c'est un choix fort quand même.
C'est parce qu'il est noir.
Non. Qu'en pense Ghislain Printemps ?
Ghislain Printemps ? Non.
C'est pas lui, l'entraîneur de Bastia ?
Ah non, c'est.
Non, c'est Ciccolini.
Excusez-moi, Ciccolini. Ouais, tu couperas, tu vas au montage.
Non.
Je
passerai
pas pour un
con. Non, mais bon, voilà. Quand, moi, Marcelin Albert, Kanté qui sort, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est un des meilleurs Français sur toute la Coupe du Monde et on se dit, ah merde, là, c'est quand même une mauvaise nouvelle, quoi. Et N'Zonzi, bon, bah oui, on l'a vu un peu jouer, mais est-ce qu'il va arriver à prendre le rôle ? Est-ce qu'il va s'intégrer
Ouais, et puis c'est vrai que t'as le.
Bah, est-ce qu'on dit N'Zonzi ou N'Zonzi ?
Je sais pas comment on dit.
De toute façon, un vrai 6.
Oui, voilà.
On perdait tous les secondes ballons. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, on n'ose pas tous les récupérer.
C'est sûr qu'il fallait pas qu'il fasse rentrer Tolisso ou quoi, parce que c'est pas du tout le même style de joueur. Mais
parce qu'il est lyonnais. Parce qu'il est énormément mobile. N'Zonzi, s'il se plante devant la défense, il fait le hent et puis il bouge pas, quoi. Donc,
mais alors pour
ça nous a sauvé. Hein,
Par contre, tu vois, pour reprendre, je crois que c'est Spooner qui en avait parlé tout à l'heure quand vous discutiez. Il y a le parallèle avec le changement Alou Diarra Viera en 2006, sur la finale 2006. Alou Diarra fait pas le match de sa vie derrière, hein, quand même. Hein.
Non, Diarra, c'est la différence. Enfin, Alou Diarra, voilà. Fait 3 passes latérales. C'est...
Non mais N'Zonzi.
Alou Diarra Viera d'ailleurs, oui, parce que t'as dit Alou Diarra Viera.
Non, j'ai mal prononcé. C'était Alou Diarra Viera. Non mais ce que je veux dire c'est que N'Zonzi.
On parle d'une équipe coachée par Domenech quand même.
Ouais, mais N'Zonzi vu les conditions.
On fait les
guillemets
avec les doigts là. Mais
sourcilé.
Coaché.
N'Zonzi vu les conditions, il aurait pu très bien se chier dessus aussi.
Bah,
hein, globalement.
C'est pareil, en termes de vécu, d'intensité.
Bon joueur,
niveau,
voilà.
Enfin, voilà,
il fait les finales de Coupe d'Europe. Enfin,
bien sûr.
Pas la même intensité, mais il y a.
Non, mais il a prouvé qu'il était solide.
Il fait aussi des belles saisons.
Et puis je pense que Deschamps qui a un truc assez. Bon après, tu veux me dire c'est le propre de tout sélectionneur, mais il connaît quand même super bien ses joueurs. Je pense qu'il prend pas, il fait pas non plus lui de sa subjectivité à lui. Il prend pas trop de risques non plus. Nous,
oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non,
il a pas trop fait jouer Rami, donc apparemment il le connaît bien, je pense.
Voilà, bon, oui, d'accord. Mais
N'Zonzi ne fait jamais une sale rentrée de toute la compétition. Je sais pas combien de matchs il rentre, mais
il rentre
dans
2-3
rentrées.
Il est titulaire contre le Danemark.
Ouais, mais il fait 3-4 matchs. Il n'y a pas une rentrée qui craint.
Est-ce que c'était bon contre le Danemark?
Et pensez à Rabiot.
C'était pas terrible, mais bon.
Il a endormi beaucoup le jeu quand même.
Ouais, moi j'avais ce sentiment un peu de ralentissement du jeu.
Pas deux conversations.
Ah oui, pardon, on a splitté le. Excusez-moi.
Ça va être hyper chiant pour la lune.
Non, nous. Vas-y d'abord.
Non, il disait, N'Zonzi, Spooner disait penser à Rabiot, mais Rabiot, du coup, penser pour lui.
Petit ange parti trop tôt.
Mais on sait pourquoi, hier soir, on a su pourquoi il n'était pas là, parce que s'il était rentré là, il n'aurait pas fait mieux que les autres.
Ouais, puis,
il aurait fait moins bien. Clairement, là encore, c'est pas le même rôle, encore une fois. Mais Rabiot, s'il passe sa place, c'est face à Tolisso. Et ça me fait mal de le dire, mais Tolisso fait une bonne saison. Et Rabiot, à part ses caprices, par ses machins, s'auto-exclut.
Mais je pense que là on parlait de l'ambiance de groupe, je pense que Rabiot pris son sens aussi pour ça.
Aujourd'hui c'est pareil que Benzema, c'est pareil que Valbuena, malgré lui finalement. Mais par le talent, Valbuena n'a plus sa place dans cette équipe depuis un moment. Mais voilà, mais du coup ces gens-là s'auto-excluent. Et tant mieux parce que Deschamps a moins de choix à faire là-dessus. Et il faut un groupe de 23 joueurs qui vivent ensemble. Il l'a dit en interview que j'ai vu ce matin, je ne sais plus trop où. Il disait ouais mais j'ai 23 joueurs, les mecs ils ont tout fait ensemble, vous savez, la presse vous ne savez pas, mais les types limite ils allaient chier ensemble et voilà, et c'est ce qui fait qu'une équipe est championne du monde, c'est la différence. Tu peux aligner 23 Messi, tu seras pas champion, enfin surtout en gardien, il a l'air con quoi, tu vois.
très rapidement pour finir sur cette équipe de France et après parler un petit peu de la Coupe du Monde en global, parce qu'on a dit qu'on faisait court, on en est déjà plus de 30 minutes. Un moment de l'équipe de France à la Coupe du Monde, un moment que vous retenez de la Coupe du Monde chacun, à commencer par Marcelin ou quelqu'un d'autre. Si,
il va venir.
Je viens. un moment. Alors moi, malheureusement, j'ai pas vu le quart de finale hein, comme Lucifer, malheureusement pour des. Pour
comme
des,
le capitaine Rai aussi.
Comme le capitaine Rai. Je trouve que, de toute façon, à partir de la demi-finale et de la finale, il n'y a pas de moment fondateur parce que je trouve que l'équipe est lancée. Donc, le moment fondateur, je vais dire le match contre l'Argentine, même si, encore une fois, à cause de la boisson, j'ai pas de souvenir particulier. Mais
le mec n'a pas regardé du tout la Coupe du Monde.
Le best-of de la Coupe du Monde de Marcel Albert fait 4 minutes 30. Après, je sais pas, ça s'arrête à.
C'est de l'alcool, beaucoup d'alcool.
Ça s'arrête à la 15ème minute de tous les matchs.
Non, c'est bon, j'en ai un.
Le méga compil des premiers quarts d'heure.
Bon, c'est pas très original, mais c'est quand même la course de Mbappé contre l'Argentine. Où en fait, tu te rends compte que moi, j'ai vu des bouts de saison du PSG. Je vous rappelle que je suis supporter de Montpellier, donc je regarde pas forcément du football toute l'année. Mais la course de Mbappé, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, avec un type comme ça dans l'équipe qui est capable à un moment tout seul de faire sa vie et de à lui seul, bon là il amène un péno, mais bon, de faire la différence tout seul et de passer des mecs qui sont dans des plus grands clubs européens, bon même si je dis les mecs qui jouent dans les plus grands clubs européens, je dis pas des.
Mathieu ne tique pas, hein. Voilà. Ouais, il tique pas même pas, hein. Il dit non, rien, mais... il bouge pas, regarde, on l'a perdu.
Non mais la course de Mbappé elle est formidable et puis le match contre l'Argentine est formidable et là je me suis dit qu'en fait voilà le premier podcast j'avais dit que l'Uruguay allait péter. Après je me suis dit que voilà c'était lancé quoi. Voilà.
Et Monsieur Fidel Bion.
Du coup, j'étais en train de réfléchir pendant qu'il parlait.
Alors,
que...
Monsieur Spooner, sinon.
Je suis bon. Alors, deux qui marchent en binôme, mais plus précis que ce que Marcelin a dit. Au-delà de la course de Mbappé, sa toute dernière prise de décision sur cette course, le moment où il dit. Bah, je vais prendre aussi Rojo. C'est-à-dire qu'il en a pris deux.
C'est le mec, il est fatigué.
Il en a pris deux, il a fait 30 mètres, peut-être 35 mètres. Il a un espace, il commence à s'excentrer, et dans sa tête, c'est le moment où il se dit, comme tu dis, ouais. Il se dit, ah, allez, lui aussi. Et ça, c'est génial parce que tu le vois sur le terrain, tu vois ce moment où il se dit, allez, lui aussi. Et là, t'as Rojo, par contre, dans sa tête, il se passe des choses, c'est la tempête, tu vois. Ce moment, j'ai adoré, et un autre, peut-être plus anodin, mais ouais, qui est beaucoup plus lourd de sens. C'est le moment où Lucas Hernandez, et alors on va mettre des gros boudins en plastique sur les côtés parce qu'on sait ce que ce garçon a à côté dans la vie, pas forcément exemplaire, voilà. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas suivi des affaires de...
C'est lui ou son frère, du coup.
Les deux. De violence conjugale, voilà, donc c'est pas forcément un garçon exemplaire dans la vie. Par contre, il a... Et je trouve était symbolique de ce groupe en termes de combativité. Et le moment, et donc je crois que. Bah oui, pardon, désolé. Allez, les pieds dans le plat, mais c'est toujours moi ça de toute façon. Mais le moment où il est, je crois, c'est contre. Il me semble que c'est aussi contre l'Argentine où il est allé parler dans la bouche d'Otamendi.
C'est bizarre.
À la fin où ils essayaient de vriller, ils essayaient de parler, ils essayaient comme des bons Sudam qui sont, quoi. Et où lui a joué ce jeu et a allé leur dire. Barrez-vous, parce que en vrai, si vous voulez friter, on va friter. Et alors que c'était exactement le contre-argument de toute une tripotée de gens qui critiquaient cette équipe, comme quoi elle avait pas de couilles, comme quoi ils allaient pas poser de problème, etc. Et bah, j'ai beaucoup aimé ce tout petit moment-là de Lucas Hernandez. Et globalement, voilà, Lucas Hernandez au régime en général.
Alors, j'allais partir sur le France-Argentine, et je pense que ça constitue pour tout le monde le moment où on sait un peu, où on a vu le vrai potentiel de l'équipe contre les grosses équipes, et j'avais en tête la volée de Pavard sur laquelle j'ai exulté, qui nous permet de reprendre l'avantage.
C'est presque tellement évident, en fait.
Voilà. Mais en fait, et en repassant le parcours de l'équipe de France, est-ce qu'on se souvient comment on a gagné le match contre l'Australie? Est-ce qu'on se souvient qu'on a gagné avec un lob du pointu contré à la 86e de Pogba, contré par un défenseur australien, et qu'on gagne ce match et qui nous lance
avec la VAR aussi.
Avec la VAR sur le premier pénalty de Griezmann. Et en fait, j'étais en train de penser aux compétitions qu'on commence à la con et de manière totalement 2006, débile. Et en fait, 98, on commence sur un but du Gary qui nous permet d'exploser dans une autre dimension et de décoincer toute l'équipe et de lancer la compétition. 2006, c'est le troisième match, il faut attendre le troisième match, on doit gagner avec deux buts d'écart contre le Togo, et Patrick Vieira énorme qui sort les choses, mais les deux premiers matchs étaient vraiment très merdé. Et ce qui fait que voilà, 2010 par exemple, on s'est pas trop inquiété par rapport au sale résultat du premier match,
alors que
mais en fait le truc c'est que voilà, l'Australie, on était sûr de gagner 5-0, c'était un match compliqué, un match où voilà, on a le frein à main parce qu'on sait pas trop où on va aller.
parce que c'est des équipes qui sont chiantes à bouger, mais il y a ce truc, voilà, où Pogba met le bout du pied, le truc est contré et va lober le gardien à la 86e, et ça nous permet de gagner et ça permet de lancer la compétition. Et là où c'est vrai qu'on ne retiendra pas forcément qu'il n'y a pas pénalty à la finale pour la France, mais on a déjà commencé chez nous à réécrire l'histoire en disant que bah, ce parcours-là est hyper solide, sauf que le parcours, il ne faut pas le faire seulement commencer contre l'Argentine, et que le match contre l'Australie constitue déjà une première grosse étape de construction du groupe. Et voilà, donc ce moment-là, c'est juste la 86e contre l'Australie.
Et monsieur Grosmerdier
Bah écoutez, y a un début à tout, mais je vais retenir en fait les deux arrêts de Lloris. qui m'ont un peu troué.
Pas ça, Roland.
Pas maintenant. Lloris, j'ai toujours trouvé que c'était un bon gardien, mais après, je lui reprochais, comme beaucoup, je pense, d'être un petit peu effacé, pas avoir forcément beaucoup de charisme et de pas arriver à entraîner le groupe dans son sillage. Et là, avec les deux arrêts qu'il a sortis, notamment la parade contre l'Uruguay qui est absolument folle, hein. On parle beaucoup de la frappe retournée contre la Belgique, mais l'Uruguay, c'est peut-être même encore plus beau, quoi. Et à ce moment-là, la France mène 1-0, donc c'est-à-dire que c'est juste avant la mi-temps. C'est important, quoi. C'est un arrêt qui est aussi salvateur, hein, quelque part. Donc... c'est un arrêt qu'il fallait sortir.
Salvateur Sirigo.
Ouais. J'avais Adamo, mais
chacun pas mal.
On était plus sur le football.
Mais voilà, donc les deux arrêts d'Uris qui a finalement prouvé sur cette compétition qu'il avait l'étoffe d'être un capitaine qui peut aussi guider son navire et qui a fait une bonne Coupe du Monde. Exactement. Oui. Mis à part cette finale qui laissera un petit peu, qui ternit un peu.
Dernière image, quoi. On sera resté sur une vraie parade, ça aurait été mieux.
Mais bon, voilà. Donc les arrêts d'Uris qui ont été déterminants, je pense, dans le parcours aussi.
Capitaine.
C'est quoi la question? J'ai dormi, désolé. Ce moment, c'est pas original, mais la frappe de Pavard, elle est tellement extraordinaire. Elle nous ressort d'un moment où on avait totalement replongé dans le doute. On perdait 2-1. L'Argentine, ça y est, ils avaient décollé. C'était fini, on les voyait plus, quoi. Et la demi-volée qui sort, et puis tout ce qui suit derrière, hein, c'est que tout le groupe prend confiance. Et je dis pas que le groupe naît ici, mais ça fait partie de la transformation du groupe qui, comme disait Spooner, était très tendu dans les matchs d'avant et se lâche les chevaux. Et
c'est catalyseur.
Parti, ouais, et c'est pour moi, c'est ce moment-là qui nous permet d'aller plus loin partout. On sait qu'on peut le faire. Et tous les joueurs savent.
Et les supporters. Pour l'équipe et les supporters.
Le match contre l'Argentine, on bascule tous, les joueurs comme les supporters.
Ah oui, moi, si
je dois retenir un truc, je crois que c'est le doublé d'Mbappé en fait contre l'Argentine. Je crois que sur le deuxième but, je me dis, ok, si même lui il se met à mettre des doublés contre l'Argentine, en fait, on va au bout tranquillement.
D'ailleurs, je reprends la même structure de phrase quand tu dis si même lui, mais je pense que c'est ce qui s'est passé pour les supporters et les joueurs. Si on a notre latéral droit qui est défenseur dans l'âme, qui est pas le mec le plus technique de l'équipe, qui commence à envoyer des reprises de volée extérieures. Je rajoute un moment, je suis désolé, mais c'est un moment...
Vous empilez là. Hein.
C'est un moment audio. C'est juste le Pavard de Margoton. Je l'ai revu des fois... Des millions, enfin pas des millions de fois, mais beaucoup de fois, et ça me résonne dans la tête.
On dirait qu'ils s'en rappelaient plus.
Ça, c'est, voilà. gros malin de TF1 quand tu vas sur le site pour revoir les buts. J'ai voulu le faire aussi. Bah, ils avaient pas mis les commentaires originaux, quoi. C'est une voix off monotone et l'égalisation de Benjamin Pavard.
Ils ont fait ça.
Je crois qu'ils captent pas en fait.
Ça.
Je crois qu'ils réalisent pas. Les producteurs de vidéos réalisent pas l'impact sur les gens.
D'autres émissions, ils emploient régulièrement ce côté. T'as une voix qui commente, t'as ta voix off, mais sur les buts, on rebascule sur le commentateur.
Mais par contre, sur internet, c'est hyper difficile de retrouver.
TF1, les mecs, ils ont mis une voix off.
Mais je me rappelle 98, c'est le mec qui a été commentateur de Eurosport pendant hyper longtemps, qui fait beaucoup de vidéos.
Genre pour les vidéos TF1, de la Coupe du Monde.
Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas Thierry. C'est Jean-Luc Arribard.
Alors,
avec ce mec.
En partie, ouais.
Christophe Jameau.
Oui, c'est ça, Christophe Jameau.
Putain, d'où tu tires ça, toi?
J'ai regardé Eurosport quand Saint-Etienne était en Ligue 2. Voilà.
Ah, voilà. La Ligue 2 vous fait découvrir des chaînes télé.
C'est ça.
Bon, l'équipe de France, la page est, on referme le livre de l'équipe de France jusqu'à avoir vite redémarré. De toute façon, en début septembre, on va démarrer les qualifs pour la Ligue des Nations, de la qualif de l'Euro.
Ah, j'avais oublié ça, la Ligue des Nations.
Ce serait bien que ça s'oublie très vite, cette histoire d'une manière globale. Dans 4 ans, on peut boycotter le Qatar parce que de toute façon, on va sortir au premier tour.
Dans 3 ans et demi.
Autant boycotter le Qatar.
Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais.
C'est 4 ans et demi.
C'est en 2022.
C'est la saison 2022-2023.
C'était
aujourd'hui qu'il devait prendre la décision.
Alors,
j'ai pas du tout suivi.
Ce sera 33. Du coup, vous rajoutez
33 exports.
On rajoute à jamais une équipe qui jouera un match sur
64. 64 équipes.
Les fameux tournois où il y a des équipes exemptes.
Il y aura une équipe hors jeu à la
fin. On est. Bon, on revient. Voilà. Parce qu'on est déjà beaucoup trop long, en fait. C'est terrible. La Coupe du Monde. Le bilan un petit peu global a commencé. Voilà, on va parler d'abord tout de suite du truc qui fâche.
Équipe par équipe, chacun notre
tour. Voilà, on va faire un point. Joueur par joueur. Équipe par équipe, groupe par groupe, s'il vous plaît, pour que les gens puissent s'y retrouver facilement.
Le guide de la Coupe du Monde.
C'est le guide de la Coupe du Monde, mais qui arrive trop tard, en fait. Quel match il ne fallait surtout pas louper, et en fait, peut-être vous les avez loupés, c'est dommage.
Alors si, quel match il fallait grave louper, ça serait intéressant, ça.
Bah alors, toutes les qualifs.
Tous les matchs du Panama.
Je pense que France-Danemark est absolument intouchable là-dessus. J'ai fait un résumé, il y a des passes en touche, mais ils sont absolument.
Espagne-Russie, c'était bien chiant.
Espagne-Russie, c'est
le 8ème du Danemark.
Le 8ème du Danemark est assez terrible. Le Australie-Danemark est pas terrible.
C'est Danemark-Suède d'ailleurs.
Croatie-Danemark aussi.
La
séance de tir au but.
Oui, c'est ça. En fait, t'as les 5 premières minutes qui sont folles.
Ah oui, c'est ça. C'est là où
le mondial. Et après,
pendant 115 minutes,
il n'y a rien. Et tu pleures en espérant.
Qu'est-ce qu'on peut retenir comme match, comme geste, comme tout ça?
Il y a eu sur les matchs à retenir, t'as le Espagne-Portugal qui reste quand même chouette. Sur ce moment, les deux équipes ont été à peu près chouettes à voir jouer.
On
croyait que le Portugal allait être dangereux parce qu'ils avaient du mental et ils revenaient à la dernière minute.
Mais c'est marrant parce que ce match nous a floué sur le niveau des deux équipes.
C'est toujours un peu le truc de la Coupe du Monde. La Croatie, on est passé par plusieurs niveaux aussi parce que la Croatie, au début, elle fait peur à tout le monde.
Le Croatie-Argentine.
Ouais, le Croatie-Irlandais, mais après ils attaquent les 8e, les quarts, ils bégayent et tout. Tout le monde se dit en fait la Croatie c'est pas terrible, et finalement tu les vois arriver en finale, tu fais si, quand même.
Ceci étant dit,
leur demi elle est pas folle, leur demi.
C'est compliqué, l'Angleterre
elle est solide, mais
honnêtement ils se qualifient parce que l'Angleterre ils bazardent leur match, ils ne savent pas défendre, ils font absolument n'importe quoi.
Ils étaient au-dessus pendant une demi-heure et après fini.
Ceci étant dit, juste le Portugal-Espagne portait déjà les
stigmates des
germes
de ce que
l'Espagne, voilà.
Non, mais même les deux, même le Portugal,
même pour le Portugal, mais si tu veux le Portugal, il y avait peut-être moins d'attentes. Moi quand j'ai vu l'Espagne,
ils sont champions en titre d'Europe, hein, donc
on sait tous à quel point c'est une escroquerie. Je déconne, mais si tu veux, je m'attendais pas le fait que ça finisse sur 3-2.
3-3,
pardon. Que l'Espagne prenne 3 buts, pour moi, c'était hyper significatif. C'est genre, ils étaient friables.
Après, t'as un penalty, une énorme boulette.
Ils ont tremblé tout le match. Hein.
Le Portugal qui en prend genre aussi.
C'est autant qu'à l'Euro.
Après, c'est l'Espagne de toujours le.
Voilà, exactement.
L'Espagne, il y avait cette incertitude en plus. Ils viennent de perdre leur sélectionneur. Tu dis, est-ce que ça va du coup les transcender?
L'Espagne, je les ai vus derrière. Fragile, hyper fragile contre le Portugal, des transitions, des trucs en deux passes où il se faisait effacer le milieu, enfin des trucs assez hallucinants. Finalement, avec le score, on a dit ouais, ok, c'était cool, c'était un match festif et tout. En fait, c'est exactement les mêmes problèmes qui sont revenus pour l'Espagne ensuite, si ce n'est leur stérilité offensive qui, ça, n'était pas encore apparue.
De préparation contre l'Argentine, par exemple.
Il paraît que c'est pas le début.
C'était 6 mois avant. C'était 3 mois avant. C'est en mars le match.
C'est en mars-avril.
Le même jour que notre match contre la Russie.
Mais bon, comment cette équipe qui arrive à dérouler comme ça.
Plus de sélectionneur, plus de fatigue.
Oui, voilà, plus de choses.
Et puis l'Argentine, c'était vraiment mauvais.
On a eu quand même, avec l'Espagne, on a eu la. Pareil, je sais, c'est pas de moi, mais c'était.
le Guardiola sans les idées quoi, c'était la possession, ouais, la possession pour rien, pas de verticalité, pas de
ce que malheureusement était capable de faire l'équipe de France aussi par moment avant la Coupe du Monde, enfin c'était c'était
alors
les États-Unis, le match contre les États-Unis c'est dramatique, enfin on sait absolument pas quoi faire de
c'est là qu'il faut qu'on s'avoue un truc et qu'il faut qu'on se l'avoue sur le long terme, sur depuis genre peut-être 20 ans, c'est qu'il faut que juste qu'on s'avoue qu'on est un pays qui forme des très belles équipes de contre et qu'on a toujours été des équipes de contre, peu importe
que ce n'est pas sale,
voilà, et que ce n'est pas sale, grave, en fait. Et que peu importe ce qu'a pu laisser comme trace, comme souvenir dans les mémoires, la victoire de 98, etc. Mais le plus âgé d'entre nous me confirmera que on jouait quand même avec trois milieux
on jouait en contre,
défensif. Que en 2000, on était une formidable équipe de contre avec Pires. Avec Henry, en plus, bon, là on joue en 4-4-2 en 2001, il me semble.
Ouais, Nelka, Henry à Nelka.
Voilà, enfin, on avait des flèches aussi devant. En 2006, c'est quasiment la seule solution qu'on a parce que c'est le moyen d'exploiter Zidane, c'est le moyen de. Voilà, etc. On a Ribéry qui arrive, qui est tout frais, qui est. On est comme ça, c'est très bien, et c'est même presque bien qu'on l'assume comme identité en fait.
Il faut l'assumer, il faut comme, pas voir ce qu'on.
Et faut même pas qu'on cherche à l'avoir le ballon en fait.
Non, c'est pas grave.
On n'est pas bon avec ça, c'est pas notre truc.
Équipe qui joue qu'en contre et qui joue très bien. Et c'est aussi une transformation du football où pendant 8 ans, peut-être 10 ans, on a
il y a eu le guardiolisme.
Il fallait faire des belles passes. On voyait qu'en début de saison, Lille avec Bielsa qui était génial parce qu'il faisait plein de passes et c'était cool, mais il prenait 3 buts à chaque fois. et quand c'est stérile, ça sert à rien. Si tu sais le faire et que tu le maîtrises comme le fait Paris, comme l'a fait à un moment donné le Bayern il y a quelques années, c'est génial hein. Mais quand en face ils ont compris que tu fais le dos rond et que tu mets un contre et tu marques un but et c'est compliqué pour eux.
1000 passes hein, le dernier match de l'Espagne.
1000 passes.
C'est pas un dessin animé avec des fourmis.
Moi j'ai regardé le match, c'était vraiment des passes latérales quoi.
Vraiment.
C'était 11 à l'Oudjira.
C'était du handball quoi. On essaye d'attaquer la zone là.
Puis il y avait ce truc d'une immobilité, c'est-à-dire qu'ils tenaient le ballon sans solution.
Oui, mais parce que les Russes restaient à 11 derrière, tant pis quoi.
Mais typiquement l'Espagne époque calquée sur le Barça, l'Espagne de la grande Espagne d'il y a quelques années, ce genre d'équipe, ils étaient capables de les fracturer en fait.
Ah oui, bah oui,
bah, ils étaient capables. Il y avait la passe vers l'avant, tu l'attendais plus.
Il y avait toujours ce petit jeu en triangle, ce truc, ce machin, les petits jeux en triangle.
Chavi aussi,
ils ont perdu des joueurs exceptionnels.
Et puis Iniesta qui est en bout de course.
Et puis ils avaient aussi, ils avaient David Villa, Fernando Torres devant. Désolé, Diego Costa, il est peut-être pas mauvais, mais pas dans ce jeu-là.
Il est pas pour
lui. Il lui faut des grandes balles devant pour qu'il mette des.
Lui, c'était un contre-emploi pour le coup. Lui, c'était.
Mais depuis le début, depuis qu'il a pris la sélection. Et tout, enfin, c'est quand même compliqué de se dire que ce mec a.
Mais est-ce qu'il a joué? Moi j'ai pas suivi les phases de poule de l'Espagne. Est-ce qu'il jouait tout le temps Diego Costa?
Oui, il a joué. Bah, pour moi, il a joué pas tous les matchs, mais il a été titulaire.
Je ne vois pas tous les matchs d'Espagne.
Je pense que oui.
Il a peut-être pas joué tout le temps parce qu'il a quand même connu une période compliquée à Chelsea.
Oui, il y a les 6 mois.
Ah oui, c'est pour ça.
6 mois où il jouait pas là.
Où il part après, de toute façon.
Il part à l'Atlético.
Mais il est bloqué pendant 6 mois.
On peut toujours se dire qu'il y a pire que l'Espagne, il y a l'Allemagne. On sait qu'il revient. Très vite, on se fait pas de soucis. Après, il garde le sélectionneur, ça c'est vrai que c'est quand même un truc qui est. On appelle ça une Domenech dans le.
Je veux dire, le mec, il a peut-être aussi appris ses erreurs, ça fait
demander sa femme en mariage.
Nous avons
de pas te débarrasser de ton sélectionneur sur un gros échec en fait. Enfin, il y a un moment où ça devient.
On en parlait,
c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, Marcelin. Le mec il gagne la Coupe des Confédérations avec l'U23, il est têche après pour la Coupe du Monde.
Non,
je veux dire, ça c'est typiquement le genre d'erreur petite bite qui fait qu'un sélectionneur doit virer. Ça fait 12 ans qu'il est là. À un moment donné, il faut. Mais cela dit, l'autre problème c'est que. Quel entraîneur a envie. Quel entraîneur allemand parce que. Ils en ont plus non plus tellement.
Ils sont Klopp, mais qui est beaucoup trop occupé pour le moment. Mais c'est vrai que quelque part, ils semblent.
Non, mais un ancien, moi je pense. Il est toujours.
Jupp Heynckes.
Il est toujours manager.
Il est
toujours manager général, Biroff, ou comment ça se passe?
Je pense.
Biroff, il a jamais été.
Mais il sera pas coach.
Jamais été coach.
Non, mais ça fait aussi longtemps que Love est là, Love, qu'il est là. Olivier Biroff, il est au-dessus, quoi. Non, mais moi je pense.
Il faut virer les deux, de toute façon.
Non, mais je pense.
Qui part, l'autre
prendre
part
le temps
aussi,
d'essayer de se reconstruire différemment et peut-être faire plus confiance aux jeunes au U23, même si c'est pas leur seul problème. Ils ont aussi le même problème que de l'Espagne et machin, c'est une possession stérile. C'est vouloir garder la balle, multiplier les passes, multiplier les machins.
Ils ont une fin de cycle quand même, que ce soit en termes d'idées ou de joueurs, ils commencent à toucher une limite.
On en parlait il y a 15 jours.
devant le fait de laisser Gomez sur le banc tout le temps. Alors c'est vrai qu'il a 37 ans ou je sais pas quel âge il a, et qu'il a peut-être pas 90 minutes dans les pattes tous les 5 jours, mais c'était le seul mec qui avait des idées, enfin qui était le numéro 9 dans leur équipe. En fait,
ouais. Bah, pour avoir suivi le Mexique du coup avec pour hors jeu.
Ah c'était toi, c'était vous. C'était pas un vrai Mexique. Un vrai...
Non, non, d'accord. Bah, non, désolé, c'est, ça faisait. Je sais que
ça
je.
Il y a des airs du sous-commandant Marcos avec
ouais,
la casquette.
Bah, je suis en train de. Bah non, mais elle est pas encore. C'est pas encore carré la casquette. Mais non, mais du coup moi j'ai vu le premier match et vu dans le sens pas regarder pour.
T'étais pas ivre.
Voilà, je m'en souviens très bien. Je trouve des similitudes, alors pas dans le jeu ou quoi que ce soit, mais avec le match contre le Portugal-Espagne, puisque ce match-là nous a, pour moi, nous a floué sur ce qu'allait se passer après derrière pour l'Allemagne, parce que ils se sont juste fait bouffer par le Mexique en fait.
Ils en ont pris qu'un, tu vois.
Ouais, ils en ont pris qu'un, ouais. et puis ils se sont fait bouffer littéralement. Et je pense que n'importe quelle autre équipe,
ça aurait pu être pire.
Viol,
ouais.
Hein, le
je veux
match,
dire, tu prends ouais, même la Croatie, facile, même nous, enfin j'en sais rien, une équipe qui n'était pas vouée à disparaître aussitôt de la compétition, le Mexique, enfin l'Allemagne par contre, pardon, a disparu sur ce match-là. Mais pour moi, c'était pas, il n'y avait pas de signe avant-coureur d'une disparition dégueulasse sur le troisième match contre la Corée du Sud. Enfin,
bah, on aurait dit un mondial un peu l'équipe de France en fait, enfin quelque part l'Allemagne. Enfin, ça m'a rappelé ce côté. Les Français qui ont pas de mental, qui ont le match couperet et tout, et où ça foire.
Il y a une victoire en trompe-l'œil. la victoire contre la Suède.
Moi, c'est là où je me suis dit.
C'est ça. C'est un peu genre la France à l'Euro 2004 qui va arracher la victoire contre l'Angleterre avec le penalty et le coup franc Zidane. Où tu dis ah en fait ça va, en fait non on est nul et on se fait sortir par la Grèce,
c'est
comme
le premier match,
c'est le premier match en plus, mais Allemagne Mexique pardon, enfin j'en reviens quand on disait les matchs qu'il fallait pas rater sur ce mondial, enfin clairement c'était les matchs les plus plaisants qu'il y a eu, c'était absurde, t'avais l'impression
que j'ai loupé, et ça nous a floué aussi sur le vrai niveau du Mexique qui a complètement explosé contre un Brésil qui était pas
bidon, enfin c'était ce match là il méritait pas de perdre,
mais le Mexique qui a explosé,
tabassé par la Suède aussi, enfin bon le Mexique c'était complètement bizarre en fait. On pensait les Mexicains hyper forts, c'est juste que les Allemands étaient
après,
vraiment
très tabassé par la Suède, c'est le dernier match. Ils sont alors
ah, mais c'est
au début coupé, au hein. début je me disais qu'ils étaient qualifiés, mais je reviens sur mon erreur
gagne,
avant.
Le Mexique est dehors. Hein.
Oui, pardon.
L'Allemagne n'arrive pas à la foutre au fond malgré les 95 occasions qu'ils ont
et ils perdent.
Et non voilà, et puis parce qu'ils ont mal géré leur truc, ils ont empilé les mecs devant et puis voilà. Et après c'est anecdotique les deux comptes qui se prennent, les deux buts qui se prennent. Enfin, de toute façon, les mecs, ils sont, ça change rien pour eux. Ils sont,
ils sont déjà rentrés dans leur tête.
Ouais, ils sont déjà finis. Mais je pense qu'avant le match, ils sont déjà rentrés dans leur tête. En fait. À la mi-temps, les mecs, tu les sens baisser les bras, se dire bon, bah écoute, tant pis, on va tirer de loin, on verra bien quoi.
Oui, voilà. Un joli palmarès des losers. Faut qu'on en parle donc, quand même, à un moment, des winners et des losers.
Et les autres.
Un petit condensé. Faut faire un rapide bilan. Hein. L'arbitrage vidéo, voilà. Première compétition. À résonance internationale, enfin voilà, enfin là tout le monde a vu en permanence que, alors bon moi je sais que je suis plutôt contre à la base, hein, voilà, pour des raisons de rythme de jeu, pour des raisons de d'égalité, de plein de choses. Après est-ce qu'on est, je pense que je suis pas le seul à la table à être comme ça, hein, mais on est quand même tous hyper mal à l'aise quand du coup il y a un penalty sifflé pour ton équipe, voilà. Et que ça bénéficie.
Bah après dans la mesure où ça peut être sifflé contre nous, je vois pas pourquoi on serait pas content que ce soit sifflé pour nous, tu vois. Enfin je veux dire dans la mesure où c'est une arme qui peut être utilisée en face.
Mais c'est pas une arme, c'est un outil.
Tu passes ton temps à dire que c'est une salle d'idée et tout, machin, t'en bénéficies.
Ça reste de la merde, mais dans la mesure où ça peut être utilisé contre nous, voilà quoi. Maintenant que c'est là, vu que c'est là, bon bah voilà, sur un match, je vais pas me rendre triste qu'on gagne là-dessus.
Ah bah non,
c'est exactement la position que j'ai maintenant, je suis ni pour ni contre, je suis résigné.
Ah non, par contre, je reste contre, qu'on soit clair.
La vidéo va rester sur le football, on va pas l'enlever, ça va aller en continuant dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais elle va être là, il va falloir s'y faire.
Maintenant, la vraie réflexion à avoir, c'est pas pour ou contre aujourd'hui, c'est comment on l'utilise mieux, comment on fait que les délais sont plus courts, soit plus...
Non, il faut faire un changement, c'est que l'arbitre centre, c'est l'arbitre qui va appeler la cabine.
Voilà, le seul argument qu'il peut y avoir, c'est ça ira mieux avec le temps.
Mais
je sais pas, peut-être que Roland, toi, on va garder Spooner pour la fin, parce que c'est sans doute la vie qui va trancher.
Mais la vidéo, moi, j'étais vraiment sceptique. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a été beaucoup utilisée pendant les phases de poule et beaucoup moins après. Alors, je sais pas s'ils ont eu des consignes. Mais les phases de poule, c'était insupportable. Il y avait la vidéo pour tout et n'importe quoi. C'était chiant. Alors ça me sortait par les yeux de les voir faire le geste. Là, c'était insupportable.
À ce niveau-là, est-ce qu'il y a un... Je te laisse finir après, mais est-ce qu'il y a une règle, est-ce que au niveau de l'appel à la vidéo, est-ce que ça peut être demandé?
C'est jamais
par
les joueurs qui l'appellent.
C'est la cabine qui est censée appeler l'arbitre en disant il y a un truc.
Parce que dans les faits, finalement, c'est ce qui s'est passé. C'est les joueurs qui faisaient qui réclamaient les.
Non, mais le penalty, de la finale. Le penalty de la finale, c'est la cabine qui a.
C'est la cabine qui donne.
C'est la cabine qui donne.
Les joueurs ils râlaient, mais l'arbitre il y a rien. Et puis d'un seul coup, on lui a parlé à l'oreille.
Mais ça reste long. Et ça casse le rythme et machin. Ah, mais après, bon, voilà, encore une fois, moi je suis pas spécialement pour et j'aime pas. Enfin, ça a donné des situations ubuesques au Portugal, en Italie, la saison dernière, et on va en avoir bouffé la saison prochaine. On en a bouffé pendant les phases de poule. Et maintenant, c'est là. Voilà, on va faire avec, de toute façon, et puis on va apprendre à vivre avec.
Spooner.
Alors.
premier point.
Alors,
premier point.
Je vous le dis. Moi, enfin. Je veux bien qu'on critique toutes les innovations possibles, mais il faut aussi voir d'où on vient. On vient de précédents systèmes qui n'ont pas permis d'effacer toutes les injustices liées aux décisions arbitrales. Il y en a eu certaines, comme les arbitres de surface. On a été incapable de donner la responsabilité nécessaire à ces arbitres-là pour pouvoir juger.
J'ai jamais vu un arbitre de surface agité, ne serait-ce qu'un bras.
Ils ont pas le droit.
Donc
c'était par oreillette.
Un arbitre qui s'agite derrière la surface, ce soit forcément bon.
Ça dépend s'il le fait bien.
Alors c'est dommage de pas avoir les images.
C'est pour ça que je l'ai fait.
Et il y a donc des systèmes qui n'ont pas fonctionné. Je pense qu'il faut prendre la vidéo comme un système pareil en test. Ce qui fait le côté intéressant de la vidéo, c'est qu'on écarte effectivement le côté un peu humain du jugement et qu'on peut se repasser au même titre que n'importe quel téléspectateur et des centaines de millions de gens qui regardent le match, de mettre les arbitres au même niveau de vision des actions pour pouvoir juger. Je dis pas c'est bien ou c'est mal, je dis juste qu'on rééquilibre la personne qui a la plus grande importance dans le jugement au même niveau que les autres. Ensuite, il faut aussi savoir qu'il y a certaines décisions qui ont été prises alors que la vidéo n'était pas autorisée, qui ont été prises par la vidéo. Je rappelle que l'exclusion de Zidane, l'arbitre central ne le voit pas. C'est le quatrième arbitre, en revisionnant les images, qui voit le coup de boule de Zidane. Zidane, officiellement, n'a pas à être exclu en finale de 2006, puisque l'arbitrage se fait par le signalement du quatrième arbitre qui a revu les images au ralenti.
Rendez la Coupe du Monde.
Quatrième arbitre qui n'est pas censé intervenir sur ce qui se passe sur le terrain.
Donc il faut aussi se rendre compte qu'il y avait quand même déjà un jeu de dupe par rapport à cette vidéo-là. C'est un peu comme le professionnalisme dans le rugby jusqu'à dans les années 90. Voilà, c'était un peu c'est le sketch.
On parle de handball, ça commence à faire beaucoup. Le prochain team parle le Tour de France, moi je coupe le podcast.
Un peu total. Sur le test de la première, sur la phase de poule, je suis complètement d'accord, c'était n'importe quoi. Sauf que, et nous les premiers, on n'était même plus très sûrs de la manière dont les choses se décidaient.
Record de pénalty, on n'avait pas terminé la phase de poule, qu'on avait déjà battu le record de pénalty sur une Coupe du Monde.
Sauf que, si on a pénalty avec la VAR, c'est peut-être qu'il y a faute. Quoi. Donc, et que, surtout, la VAR est enclenchée par la cabine. Je sais plus, contre l'Argentine ou contre l'Uruguay, on a un match où c'est Turpin qui est en cabine. Il y a un match où c'est Turpin qui est en cabine. Allemagne-Suède, ou je crois que c'est Allemagne-Suède, où la Suède méritait un pénalty qu'elle a jamais eu.
Ça règle
le patron. Par exemple, Nigeria contre l'Argentine.
Il n'y avait pas de Lyonnais qui jouait, forcément.
Il n'y a pas de pénalty.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'enlever de la tête qu'il va y avoir une décision sans contestation possible. Il faut juste
Décisions uniformes aussi.
Voilà, il faut juste essayer de trouver un système qui permette une baisse des injustices dans la prise de décision. Cela étant, ça résout pas l'un des problèmes des contradicteurs de la VAR, qui est ça coupe le jeu. Je suis désolé. ça coupe le jeu que dalle. Ça coupe le jeu quand quand il y a une décision qui souffre d'une contestation sur le terrain, il y a de toute manière un arrêt-jeu qui
c'est pas la même taille.
Alors pardon, mais alors si on reprend la finale,
la
contestation, elle arrive des Français. Les Croates arrivent pour contester l'attitude des Français qui viennent contester l'arbitre. Ouais. La seule chose qui met le point final à ce débat
Oui, mais c'est celui qui l'a fait naître.
C'est l'arbitre.
Oui, mais c'est la vidéo qui l'a fait naître. Les Français, ils viennent réclamer.
Savoir que c'était
l'écran.
Tu n'enlèveras jamais la contestation. Donc tu rajoutes deux moments.
Quand les joueurs comprendront que la VAR ne vient pas de l'arbitre central, que l'appel à la VAR ne vient pas de l'arbitre central, mais de la cabine. Alors attendez.
Je pense que ça s'arrêtera pas non plus. Les mecs continueront à les crier sur l'arbitre en espérant que l'arbitre dise.
Sauf que le point final, il est mis là. C'est que il est mis là. J'ai pas entendu. Voilà, merci.
Il a eu peur. Quoi?
Qui c'est Roger? Il y a un Roger autour de cette table.
Quand l'arbitre dit j'ai l'oreillette,
En revanche, c'est fini aussi.
Sauf que quand les joueurs en voient la main, je suis désolé, je prends encore ma tarte à la crème qui est la main de Vata. Moi, j'en suis toujours pas remis. Qu'un mec qui met le bras comme ça à 2 mètres du gardien pour la rentrée dans les cages, ce mec-là soit pas sanctionné. Et pire que ça, soit pas même sanctionné a posteriori. C'est-à-dire qu'on est dans un sport où on ne considère pas la sanction a posteriori comme quelque chose de légitime, alors que ça devrait l'être. À partir de là, on met les outils sur le moment pour avoir le jugement le plus juste possible, mais qui n'est pas infaillible. Et je termine juste avec, parce que de défendre cela, ça ne veut pas dire que je suis complètement d'accord avec le dispositif. C'est-à-dire que où on arrête la VAR, allons plus loin. Où on arrête la VAR, c'est-à-dire à quel niveau de compétition on l'arrête.
Ça va être de toute façon, voilà.
La question, c'est moi que je me pose, c'est l'inverse. À quel niveau on la commence?
Ça revient au même.
Merci Monsieur Pirouette.
Mais c'est une question de moyens.
Mais le truc, c'est que là, par exemple, il y a les matchs de gamins actuellement. Les parents sont en train de filmer avec les téléphones portables en allant voir l'arbitre en disant.
Non, mais d'accord, mais c'est ridicule.
Voilà, c'est complètement con. Et après, il y a des solutions pour améliorer, qui est, par exemple, comme au tennis, quand il y a un doute, est-ce que l'équipe a le droit à deux machins par
an?
Dire un truc, c'est que si, pour éteindre toutes les contestations possibles, et je pense que c'est cette manière-là, arrêtons de faire dans le circuit cabine, arbitre central, arbitre central, cabine. Dès qu'il a un doute, il siffle, il arrête tout, il fait le truc, et puis là, il y a un temps de latence qui est. Jérôme, attends, c'est Cahier du football.
Ah. Tu viens d'exclure.
On les embrasse.
Les amis du Cahier.
Oui, voilà. Spooner, ton compte a été résilié.
Ouais. Ta carte a été.
Tu ne peux plus accéder aux cahiers.
Ce que je veux dire, c'est que tu n'existes
plus les cahiers. Tu n'as jamais écrit pour eux. Tu as été remplacé.
On vient de nous le dire. C'est que le temps.
Un projet Mina, qu'est-ce qu'il a fait?
C'est-à-dire que le temps de jeu n'est pas arrêté puisqu'on attend. Et que le jeu doit continuer quoi qu'il arrive. On attend que la cabine ait visionné les images pour rappeler. Et pendant ce temps, on continue à jouer. Ça, pour moi, non. Dès qu'il y a un doute de l'arbitre qui ne sait pas s'il a vu un truc, s'il doute de quelque chose, il arrête, il demande la vidéo.
Et encore une chose, c'est que les challenges du tennis, mais on peut aussi déterminer des typologies de fautes. À la limite, moi, mains de la VAR, ça me convient très bien. Qu'on soumette par exemple la VAR sur aux assassins qui mettent, enfin qui mettent
les tacles
qui mettent en danger l'intégrité physique du joueur. Ça, par exemple, l'arbitre voit pas tout. On lui demande pas d'être omniscient. Laissons-lui les règles du jeu dans le jeu en action. En revanche,
on revient au rugby.
C'est plus pareil. Là.
Là, on va au rugby. Les joueurs qui sont cités, ce qu'on appelle au rugby cité, c'est-à-dire qu'il y a une commission qui revoit le match. Et un joueur qui, dans un regroupement, va aller mettre une mandale à un joueur point fermé et qui va taper que l'arbitre n'a pas vu dans le regroupement, est cité après le match. Il y a une commission qui revoit.
Ça devrait être déjà.
Le mec a posteriori.
Alors en première ligue,
c'est compliqué à faire sur une Coupe du Monde. C'est compliqué à faire sur une Coupe du Monde.
Pardon, je croyais que.
Non, je pense vraiment que déjà pour enlever tous les constatations et surtout enlever les joueurs qui sont là. Donc là, je refais le le geste de l'écran et qui poursuivent l'arbitre en lui faisant ce geste-là, alors que l'arbitre, on l'a expliqué 20 000 fois au joueur, qu'il faut qu'il attende qu'on l'appelle, donc pendant ce temps, il est obligé de faire continuer le jeu. Je pense qu'un arbitre, voilà, il voit un truc, il doute, bam, il fait ça. Oui. Et, le dernier truc, j'en ai pour 10 secondes vraiment. J'ai oublié du coup.
Ah bah.
Non, c'est vrai, spécial. C'est bon, j'ai retrouvé. Non, vas-y,
Roland.
Mais en fait, le truc de dire il faut que l'arbitre arrête le jeu dès qu'il a un doute, c'est juste pas possible. On n'est pas au basket ou au foot américain. Parce que, dans ce cas, en fait, l'arbitre, il faut aussi qu'il ait sa capacité de jugement. Sinon, il va avoir le doute tout le temps et il va dire je prends pas de risque, VAR.
Bah, c'est ça, en fait, oui, il y a un moment.
Voilà. C'est ce qu'il y a eu dans les poules. Les meilleurs arbitres n'ont à chaque fois, quand on les appelle. Il y a beaucoup des arbitres expérimentés, je pense aux Italiens, mais qui ont été très bons. Quand la Juve les appelle penalty. Non, mais
c'est la VAR.
Il y a la VAR qui les appelait. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que apparemment l'arbitre central peut dire non, c'est bon, je suis sûr de moi.
Ah bah il reste le maître du truc.
Vous m'appelez un truc. Ça y est, j'ai retrouvé pour les joueurs qui demandent des challenges. Dans le foot, je suis contre donner déléguer un pouvoir arbitral aux joueurs.
C'est clair, moi je suis contre aussi.
Mais tu vois, moi on devrait mettre un carton aux joueurs qui réclament la VAR de la même façon qu'on met un carton aux joueurs qui réclament
le carton. Le problème,
qui
enlèvent leur maillot. Le problème, c'est voilà, il y a aussi le côté, oui voilà. C'est la contestation qui devrait être stoppée. Voilà. Alors,
Pour le coup, pour revenir à la Coupe du Monde et à l'utilisation de la VAR, je vais lier avec ce que vous venez de dire, c'est que globalement, déjà, il y a un gros travail à faire sur l'éducation des joueurs s'ils veulent garder la VAR et sur savoir quand j'ai entendu et lu un taux de conneries sur « Ah, bah il aurait dû l'utiliser là », genre Modric qui a demandé pourquoi on n'avait pas utilisé la VAR sur la faute qui amène le coup franc de Griezmann et la tête de le CSC de Mandzukic. Il est même pas au courant que l'arbitre ne peut pas utiliser la VAR là-dessus. Oui, je veux dire, il y a quand même un énorme problème au niveau de connaissance des règles. Ils amènent ça, ils ont pas mis au courant, soit on restera. Non mais attends. Soit on restera, comme disait Luc tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on restera constamment, peu importe ce qu'on va faire, face à de la mauvaise foi des joueurs. C'est-à-dire si on leur dit c'est l'oreillette qui donne l'instigation, ils vont continuer de venir faire les zinzins.
Ce qui reste quand même génial, c'est qu'en plus, des fois, les mecs le savent. Enfin, les pénalties sont indiscutables, l'arbitre. Et les mecs viennent quand même réclamer, mais regardez la vidéo, vous allez voir. Bah, évidemment, c'est quand même génial d'arriver à ces situations ubuesques où les mecs contestent pour le plaisir de contester, alors qu'ils savent pertinemment que l'arbitre, quand il va aller voir le truc, il va bien voir qu'il y a penalty et le gars sait très bien qu'il a fait un tacle ou un machin.
Je pense qu'il y a autant de travail à faire sur l'affinage du processus que à la façon de l'amener.
La qualité première de l'arbitrage, en fait, de toute façon, détermine aussi l'impact, entre guillemets, nuisance que peut avoir la vidéo. Pas une question d'être pour ou contre, mais la manière dont elle peut gêner le déroulement du match.
Ce genre
de choses. Et puis surtout, de toute façon, elle n'enlève pas le débat. La preuve en est, on a discuté avant l'émission.
Elle en crée un nouveau.
C'est très bien quand tu vois déjà sur les plateaux de télé, quand t'as pas la vidéo, que les mecs sont quand même capables de s'écharper sur un truc.
Même quand t'as la vidéo installée, on refait des ralentis.
Mais tu le sais, par principe, quand les mecs à la télé, Menes et Habib Bey, qui se battent sur une décision sur l'arbitre a dû siffler penalty, ça se voit, c'est flagrant.
Comme on dit, la VAR va pas résoudre tous les problèmes, elle va en résoudre certains, elle va en créer d'autres.
Eh ben oui, mais du
parce
coup...
que la réaction de, plus par la réaction des joueurs que par la technologie en elle-même, hein, parce que la technologie en elle-même, elle est là, on voit les images.
Elle n'a pas de soucis comme la goal line.
Voilà, oui.
Mais si, il y a quand même, il y a un problème lié directement à la technologie. Pour moi, c'est le ralenti.
C'est l'angle de vue.
T'as pas l'impact.
Le révélateur en jeu.
T'as pas l'impact. T'as pas la vitesse. Il te manque des choses que sur un terrain.
Et sur la vidéo, je suppose qu'ils peuvent la passer en vitesse réelle, les mecs. Hein.
Ces fameux trucs que les gens qui ne connaissent absolument pas le foot, quand il y a une petite poussette ou un truc et que le mec tombe.
Il tombe.
Alors, mon garçon, quand t'es en sprint sur un pied et que t'es en équilibre pour déborder un joueur, oui, ça a un coup de vent et tu tombes. C'est comme ça. C'est ce genre de petits trucs-là. Je me demande, je pense très clairement qu'à la vidéo, tu n'as pas tout ça, tu n'as pas le bruit d'un crampon sur un pied ou sur un tendon. Je peux te dire que tu l'entends à des kilomètres quand ça fait plac comme ça, tu sais que tu siffles,
mais
en tant qu'arbitre, tu sais que tu siffles.
Quoi, tu vois,
je veux dire,
il est censé être pas en action.
Il y a des trucs que ça enlève quand même.
Et ça, les coups sur les tendons, vous êtes un spécialiste, le perfide Albin.
S'il vous plaît, j'apprends des meilleurs, vous savez, j'apprends des meilleurs.
En termes de contestation aussi.
En termes de contestation.
Sur un terrain de football.
La qualité première d'un arbitre, c'est un vieux formateur d'arbitre au handball qui me l'a dit, la qualité première d'un arbitre, c'est de bien savoir se tromper. Et je trouve que la VAR, ça permet... voilà, j'ai pas fini la phrase.
Oui, non mais après, en plus, enfin, je sais pas pourquoi je rebondis, mais on a vu qu'il y avait plein de bons arbitres en fait à cette Coupe du Monde. Honnêtement,
l'arbitre de la finale.
Bah oui, voilà.
Qui l'a déjà arbitré contre l'Uruguay.
Ouais. Ouais. À l'ancienne.
Et l'arbitre du Sénégal aussi, donc c'est terrible parce que j'ai perdu le nom, mais le mec fait une Coupe du Monde parfaite à chaque match.
Ah,
et tout,
il est marrant lui.
Oui,
je dis pas ça parce qu'il est noir.
Oui, oui, rattrapez-vous.
C'est celui qui a arbitré l'élimination du Japon.
C'est lui
qui avait été éliminé, qui avait éliminé le Sénégal.
Ça, en plus, ça a été l'espèce de série à chaque fois.
Mais ça, c'est marrant parce que, alors, moi, j'y crois. La théorie du complot, j'y crois pas du tout. C'est pas ça, c'est que ça prête le flanc. En fait, c'est juste pourquoi ils font ça.
C'est juste un peu idiot. Après, tu sais très bien, les mecs jouent leur carrière sur un match de Coupe du Monde, tu vas pas te flinguer. Tu vas pas venger.
Tu vas pas aller flinguer un autre truc. Ici, quand bien même. Je veux dire, le gars, il est professionnel.
C'est quand même hyper violent de remettre en cause l'intégrité d'un
arbitre. Moi je le fais pas, c'est juste que j'ai pas envie que des cons le fassent en fait. Pour éviter que les cons le fassent,
après,
mettez quelqu'un d'autre.
Dans l'absolu, du coup, il y a eu la place pour zéro polémique. Donc,
au final, ils ont hyper bien arbitré, il y avait aucun doute dessus.
C'était assez drôle, et oui.
D'entendre les connards à l'heure des pros qui sont là.
Alors après,
astuce, faut pas regarder l'heure des pros aussi. Vous prêtez le flanc.
Mais bon, bref, ouais, voilà.
Tu prêtes bien le flanc là.
Si on enchaînait avec un petit jingle, un petit jingle pour l'instant littérature de Marcelin Albert. Voilà.
Waka waka waka.
on va payer des droits à chaque tirage.
Je sais ce que c'est, moi. Spoiler, je sais ce que c'est.
Merci Roland Gomardier.
Privilégié parce que.
Monsieur Albert, revenez. Alors, est-ce que c'est une rubrique littérature qui parle vraiment de littérature ce coup-ci?
Ouais. Ben, en fait, c'était très 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 compliqué de parce que moi, je l'ai écrite et faite. J'ai lu les livres déjà pour une fois. Et j'étais pas bourré, non. Mais en fait, je l'ai fait avant la victoire de la France, donc j'ai pas de truc qui colle avec une victoire de Coupe du Monde. Je vais juste vous parler de 4 bouquins.
4.
Ouais. Voilà, il faut juste que je. Voilà. Non, parce que, en fait, je veux avoir bien les références pour donner les dates de sortie. Il y en a deux qui sont un petit peu d'actu et d'autres que j'ai trouvé pour parler un peu de la victoire et de la beauté du foot et du fait qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on s'aime et qu'on s'embrasse et qu'on se jette dans le canal et que.
Comme il y a 2 heures.
Et qu'on s'engueule et que.
Grave,
voilà, mais c'est
on
pas
est
là.
Tout nu.
Voilà. Surtout Perfide Albion et son comparse dans le canal. Alors, je vais vous parler donc les deux livres d'actualité. Le premier livre d'actualité, alors c'est actualité, évidemment, les livres sur le foot ne sortent pas tous les 4 matins, surtout des livres de bonne qualité sur le foot. Je vais vous parler d'un livre qui est sorti en mai et en juin, donc 2018. Le premier, c'est via l'antenne édition papier de SoFoot, qui s'appelle L'histoire des héros oubliés de la Coupe du Monde. C'est une compilation d'articles. Il y a notamment un article sur le fameux miracle de Berne qui a été écrit par notre l'averse du rondeau
Jean Colère
avec nombre d'alias national. Ça fait une grosse périphrase pour national à la fin. C'est comme. C'est pas comme, pardon, excusez-moi, je viens du sud, par tous les chemins. Voilà, donc c'est une compilation d'articles. C'est extrêmement intéressant parce que ça parle de.
C'est
voilà.
Que des articles donc c'est SoFoot.
Alors il y a des inédits, mais c'est pas précisé dans le livre quels sont les inédits de. Donc il faut être un lecteur de.
Les inédits de Zidane.
Il faut être un lecteur de SoFoot. Je te taperai à la fin. Un lecteur.
Ils s'en foutent là, ils sont sûrs sur leur téléphone. Là,
un
ça
lecteur
va, ça
de.
Deux, là.
Un lecteur de SoFoot assidu pour déceler les inédits des articles déjà parus. Donc c'est hyper intéressant. Bon, il y a évidemment les classiques, l'épopée de la Bulgarie, voilà, dans la Coupe du Monde 94, en train de fumer des cigarettes, des machins, voilà. Il y a un long article que j'ai trouvé hyper intéressant, que je n'avais jamais lu, je crois qu'il est déjà paru sur un SoFoot, c'est l'article sur le destin de José Touré. Voilà, je trouve, j'avais jamais lu ça en détail, mais ce que je trouve.
Le fabuleux destin de José Touré.
Ouais, avec une petite cuillère, et c'est Audrey Tautou qui joue José Touré, d'ailleurs, c'est hyper
sacré,
bizarre.
Sacré risque de casting. Encore du whitewashing de la part des studios de cinéma, quand même, hein. C'est terrible, terrible.
Je vais pas réussir à finir ma chronique, je pense. Bref, le deuxième livre, c'est une biographie qui est déjà parue en anglais. Chez.
Alors, ça coûtait combien, celui d'avant?
Je sais pas.
Tu sais pas?
D'accord.
Si, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je la surprise. Je l'ai acheté. Je peux vous le dire après.
C'est,
mais
c'est tombé du camion.
Ouais. Toi-même, tu sais. Le deuxième livre, je l'ai pas acheté parce que je connais quelqu'un qui travaille dans.
Vous n'avez pas à vous justifier d'avoir acheté ou pas un bouquin. Hein.
Voilà. Non, mais je l'ai pas volé, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a été service de presse.
Tant que vous l'avez lu quelque part.
Voilà. Donc c'est la biographie qui est déjà parue. En fait, qui est parue. Il y a quelques années en anglais chez The Penguin, qui est une grosse maison d'édition anglaise, qui est la biographie de Thierry Henry, écrite par Philippe Auclair. Philippe Auclair qui, bon, moi j'ai lu là, et je sais que Spooner l'a fait aussi, la bio de Philippe Auclair sur Cantona, qui est hyper bien écrite. Et la biographie de Thierry Henry par Philippe Auclair est hyper bien écrite aussi. On apprend à cerner un peu la complexité de ce personnage-là. Je ne savais même pas qu'il y avait une complexité autour de Thierry Henry, mais en fait, oui. Notamment, fun fact, j'avais complètement oublié, pour ceux qui s'en souviennent, mais dans les années jusqu'en 98, Thierry Henry n'avait pas ce petit ton policé que Philippe Auclair désigne de petit ton un peu métrosexuel. En fait, il parlait, je rappelle, Thierry Henry vient des Ulysses, et il parlait vraiment avec ce langage banlieusard, avec les R qui raclent et tout ce qu'il faut. Il avait aussi ce poulpe mort sur la tête. Ça m'a rappelé des souvenirs que j'avais. J'ai oublié, mais j'étais assez jeune, donc. Hein, parce que
il avait une petite moustache.
Voilà aussi. Mmh. Et bon, voilà. Donc il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a
des amis.
Il y a cette fameuse histoire qu'on oublie souvent en France et qui a été publiée en Angleterre et racontée souvent en Angleterre. Cette anecdote de ce transfert avorté au Real Madrid, alors qu'il était encore à Monaco avant d'aller à la Juventus de Turin, et qui avait été orchestré par son père et qui a fait la plus grande blessure intérieure de Thierry Henry, c'est la rupture. Professionnel et un peu sentimental avec son père qui avait orchestré tout dans son dos et qui avait signé un pré-contrat. Enfin bon, je vous encourage à aller le lire. C'est publié chez Hachette Sport. Voilà, Hachette, pas Hachette le verbe.
Oui, Hachette la maison d'édition.
La petite hache pour couper du bois.
Ça fait la grande entreprise.
Donc voilà. Et après, les deux autres livres que j'ai trouvé un peu à la dernière minute pour vous parler, voilà, c'est évidemment le livre d'Aimé Jacquet. Hein,
Ça coûte pas plus cher de bien manger.
Ma vie pour une étoile.
Ma vie pour une étoile.
Ma vie pour une étoile.
C'est la suite.
Oui. Voilà. Elle est vachement bien.
Je ferai pas
un livre de recettes.
C'est un livre de recettes. Coûte plus cher de bien manger.
Je ferai pas la blague de Capitaine Rail sur les étoiles.
Non, voilà. Vous posez ce micro
ça
immédiatement.
Ça évitera à Luxiflore de faire de l'édit.
Donc je. Si je dis pas de bêtises, c'est un livre qui est paru qui est paru en poche en 2018, juste avant la Coupe du Monde.
La photo est atroce.
La photo est hyper atroce. Non, qui est paru en poche. Il y a une réédition que j'ai revue chez les libraires avec une petite
Je l'avais en poche.
Donc pour cette parution, c'est le 16 mai 2018 chez Robert Laffont. Voilà, et je suppose que l'édition a été.
Alors, pas le présentateur de Pyramide. Enfin, encore une fois, il est important.
Non, c'est Patrice, ça.
Ouais. Bah oui, c'est pour ça que
voilà,
je faisais la différence.
Voilà, et je vous encourage aussi à aller voir Zidane, Patrice. Une vie secrète.
Si, c'est où
de Besma Laouri.
Pardon, excusez-moi.
Une vie secrète de Besma Laouri, qui paraît en 2008. Et. C'est en poche chez J'ai lu, voilà. D'accord. Et en tout cas, je vous souhaite un bon été. Lisez des livres et arrêtez de regarder des séries maintenant.
Arrêtez de regarder du foot. C'est toi qui dis ça, c'est clair.
Moi, je lis beaucoup de livres.
Je sais que chez moi, il y a un compte avec ton nom sur Netflix. Alors, viens, s'il vous plaît, venez pas la ramener.
C'est Karim qui paye.
D'ailleurs, on te doit des sous.
Sinon, ça va.
À la fin du mois.
Voilà. Ben voilà. Et bon été de lecture à tous.
Bah écoutez, merci.
Sortez couverts.
Merci. voilà. Ça laisse peu de temps avant la reprise du championnat. Alors, en fait, on est déjà à quoi, 2 semaines de la reprise de la Ligue 2, un truc dans le genre. On va pas faire ça.
On a vu les premières images de Cristiano avec son joli maillot.
Oui, tout le monde s'en fout. C'est génial parce qu'avec la Coupe du Monde.
Parce que moi, je suis passé à côté du coup.
La Juve, du coup, ils sont catastrophés.
Ils vendent des maillots manifestement.
Alors, il y a eu une annonce de 520 000 maillots vendus. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens.
AliExpress en fait plus.
Oui, c'est ça. 520 000 maillots vendus en 24 heures.
Il est fort.
Quoi? Enfin, non, mais
c'est vrai que la gestion communication, timing, non, tout était parfait pour se planter quoi.
Non mais c'était ironique.
C'est parfait pour se planter.
Voilà. Mais après en même temps, enfin de toute façon le transfert t'es obligé de le boucler rapidement. En fait le Real voulait que ça se boucle. C'est même le Real qui a communiqué dessus en premier. La Juve, je pense qu'ils auraient préféré attendre la fin de la Coupe du Monde et au fait surprise.
Il y a des petits mercato sympas qui se bouclent dans l'ombre de la Coupe du Monde.
C'est un transfert en Italie. Les Italiens jouaient pas à la Coupe du Monde. Enfin, je pense que chez eux, ça doit être la folie.
Après, il y a aussi nous.
Chez eux, ça doit être la folie.
L'écho qu'on a en France est évidemment différent de l'Italie, même sans doute de l'Espagne.
Nous, on était un peu occupés.
Nous, c'est vrai qu'on avait autre chose à foutre. On avait une Coupe du Monde à gagner. Est-ce que Cristiano Ronaldo nous gagnera du coup? Probablement jamais.
Ils ont dit qu'on était l'équipe de France la plus italienne qui soit. Donc, ils se sont réappropriés un peu le truc d'une certaine manière, tu vois.
Tant d'être l'équipe
personne,
de France qui a été l'Italie, du coup l'équipe d'Afrique, on est tout.
Mais oui, mais en même temps, on est citoyen du monde.
Et on est citoyen du monde et on est surtout champion du monde.
Non, mais les sceptiques seront confondus.
Les sceptiques seront confondus. Xavier Dolan, putain, c'est une émission hyper cultivée, hein. On fait quand même de trucs. Pardon?
Rien, je disais, on conclut, c'est ça?
Du coup, on va conclure. On va partir en vacances nous aussi, du coup, revenir probablement en septembre tranquillement, comme ça le mercato sera bouclé, on pourra faire une analyse pertinente.
On va se taper dans la cave là, c'est ça le truc qui est venu.
On va se taper, on va faire un peu du FC. Et je vais choisir. Remercier tous, Monsieur Captain Rail, Roland Grandverdier, Spooner, Père Fidelmion, Marcelin Albert,
d'avoir été.
Je suis très content.
Et on retrouvera Petit Con aussi.
Et on retrouvera, on l'espère aussi, Marcel Picon avec nous à la rentrée. Et puis coup, après, peut-être des gens qu'on ne sait pas qui viendront, mais qui viendront. D'autres qui seront plus là. D'autres qui. Enfin voilà.
Non, on a fait la première.
Il était pas là.
Marcel Picon.
Non, vraiment, on va dire au revoir. Voilà.
On n'a pas parlé de la Belgique.
On n'a pas parlé de la Belgique. Bah, mais on les
ils
laisse.
Ont le seum,
voilà.
C'est tout.
Ah, Belgique, Belge, Croate.
Les troisièmes. Franchement, les troisièmes. C'est la plus belle équipe de la Coupe du Monde, d'après eux.
J'ai envie de dire que moi, la Belgique, je m'en bats les couilles.
Oui, comme dirait Kevin De Bruyne. Voilà. Et encore une fois, donc pour la troisième fois, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous. À la rentrée.
Salut les petits loups.
Au revoir. Merci.
Ciao.